feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa numéro 1.
Salut à tous, jour J, 10 jours, hein. Rien que 10 jours, le compte à rebours pour le début du mondial dont je vous rappelle que nous serons au rendez-vous tous les soirs à partir de 20h avec toute la bande pour vous décortiquer la prestation de nos équipes africaines. Alors soyez au rendez-vous Africa Mondial 2018. Messieurs, bonsoir, bonsoir Dorian.
Oui, bonsoir, comment vas-tu? Et bonsoir tout le monde, bonsoir la belle Hélène.
Bonsoir Christian Sango.
Salut coach, bonsoir à toute l'équipe, coucou à tous nos auditeurs et à notre réalisatrice.
Hakim Djelouat.
Salut coach Lamine Badiane, salut à tous les auditeurs, toutes les auditrices et également salut à tout le plateau et un coucou aussi à Hélène.
Mais avec les bonjours, ils sont tellement longs que
oui, on
après
long,
on
fait aussi
là.
Un bonjour à ma maman et à toute la famille.
Salam alaikum. Eh bien, nous ne sommes pas encore à l'heure du mondial, mais il y a de l'actualité avec à Dakar le Djaraf de Dakar, champion du Sénégal. Nous aurons depuis Dakar donc le secrétaire général du club. Ensuite, nous étudierons avec attention les listes des mondialistes de la Tunisie et de l'Égypte. Et enfin, nous donnerons les résultats des matchs amicaux et en plus des brèves. Messieurs, ça y est pour le sommaire, nous allons réellement au développement.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Messieurs, un club a réellement marqué l'histoire du football africain. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir le secrétaire général, mais si on va l'avoir rapidement. Alors ce club, c'est le club du Djaraf de Dakar qui a sorti plusieurs internationaux. Et ce club, le Djaraf de Dakar, Hakim va nous en parler en attendant qu'on arrive à joindre rapidement donc le secrétaire général du club.
Oui, alors le club de Djaraf de Dakar, coach Lamine, a été sacré champion du Sénégal grâce notamment à sa victoire sur le stade de Mbour, pour précision. Une victoire, en fait, c'était lundi soir au stade Léopold Segar Senghor lors de la 28e journée de Ligue 1 avec au total, on le rappelle, 17 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Les protégés de l'entraîneur Malik Daf comptent on comptait 56 points, ils ne peuvent plus être rejoints à 2 journées de la fin de ce championnat. Pour information, le club a été créé en septembre 1969, né d'une fusion de deux clubs, coach Lamine. C'est
les Espoirs de Dakar.
Exactement, exactement.
Les Espoirs de Dakar et le Foyer France-Sénégal.
C'est ça, le Foyer France-Sénégal, à l'époque effectivement de la présence française. Donc c'est créé ce club qui n'a cessé tout simplement de créer l'exploit. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été relégués en seconde division. Ils ont toujours joué au top niveau, au plus haut niveau du championnat sénégalais. Et cette saison, tout simplement, c'est à l'extérieur. Écoutez bien, 7 sorties. En 7 sorties, 4 victoires, 3 nuls. C'est ce qui a fait tout simplement l'atout de cette équipe cette année du côté du Sénégal. Au total, ils aimeraient tout simplement, enfin, pour cette prochaine saison, remporter encore un trophée majeur et pourquoi pas passer ces phases finales de Ligue des Champions africaine à laquelle ils avaient participé à l'époque où ça s'appelait la Coupe des vainqueurs des clubs en 1983 puisqu'ils avaient été demi-finalistes.
Oui, alors ça c'est bien de parler du Djaraf, ouais. Surtout que ça va faire plaisir à notre
plaisir,
notre ami Willy Delcono.
Mais ça fait d'entendre Djaraf, ça fait déjà plaisir.
Voilà, justement.
Parce que les anciens clubs, moi j'aime en Afrique les anciens clubs qui reviennent et à la surface, parce qu'il y avait Djaraf, il y avait l'US Goré, la GIA.
Le gendarme de Dakar.
Donc, je suis très très content de voir le retour du Djaraf en pole position.
En pole position. Et puis d'ailleurs, nous avons donc M. Diagne qui est donc le secrétaire général du club. On va avoir une discussion avec lui et parler un peu de ce club mythique qui est du Djaraf. Et donc, il faut rappeler, mon ami Hakim,
oui.
Effectivement, c'est une fusion qui a été faite.
Tout à fait.
Quand on a voulu refaire tout le système du football sénégalais avec les Espoirs de Dakar et le Foyer France Sénégal. C'est comme ça qu'on a eu aussi les Saltigués, c'est comme ça qu'on a eu la Linguère de Saint-Louis. On a eu beaucoup de clubs qu'on a fusionnés.
Exactement. Et ça a été créé le 20 septembre 1969. Hein. C'est un club qui existe depuis pas mal de temps.
J'étais un supporter du Djaraf de Dakar.
Djaraf de Dakar.
Monsieur Diagne, bonsoir Léonard.
Bonsoir, mon ami Daniel.
Bonsoir. Comment vous allez? Ça va?
Ça va, on s'accroche chez vous.
Bon, félicitations d'abord pour vous dire que le Djaraf revient au premier plan. Alors, racontez-nous un peu cette saison où réellement c'est une équipe qui a tout remporté, tous ses matchs. Hakim nous parlait un peu du palmarès de cette année. Comment expliquer ce renouveau du Diaraf de Dakar?
Ben, c'est tout d'abord rendre grâce à Dieu et c'est le fruit d'un travail qui a été fait après une évaluation, parce que vous ne semblez pas ignorer que le dernier titre du Diaraf remonte à l'an 2010. Mmh. Et depuis lors, nous nous sommes attelés à travailler pour voir comment on pourrait revenir pour prendre ce championnat. Reste entendu qu'entre 2010 et 2018, nous avons eu à gagner la Coupe du Sénégal aussi en 2013. Mmh. Et aller en Afrique. Mais l'objectif premier pour cette année-ci, c'était vraiment de prendre ce championnat pour pouvoir retourner en Afrique.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été le fait du recrutement? Ça a été le fait de... Parce que la plupart du temps, je connais beaucoup de joueurs du Diaraf depuis quelques années, les Niakadia, tous ces gars-là qui sont partis faire talentueux leur talent de l'extérieur, je veux dire, aller vendre leur talent à l'extérieur. Est-ce que cette année, c'est une politique qui a changé au niveau de la direction du Diaraf, ou comment ça s'est passé pour que vous puissiez garder de bons joueurs, ne serait-ce que par exemple l'avant-centre, dont je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs, et que vous arriviez aujourd'hui à remporter autant de victoires sur le championnat du Sénégal?
Oui, un peu c'est ça. Nous sommes partis que depuis les deux dernières saisons, nous n'avions jamais quitté le podium. Mmh. Nous terminions soit dauphin ou troisième position. Et nous avons dit qu'il fallait voir sur toutes les lignes là où il fallait aller chercher ce qui nous manquait. Mmh. Donc au niveau du recrutement à l'intersaison, nous avons bien travaillé là-dessus avec l'encadrement technique et le président qui vraiment nous a mis dans des conditions optimales de performance. Et nous avons fait un très bon travail foncier, un travail hivernal en Gambie pendant un mois avec l'ensemble du groupe. Et c'est au sortir justement de ce travail hivernal que nous avons pu finalement choisir le groupe avec lequel nous allons aborder ce championnat. Parce que nous sommes partis avec 35 joueurs et au retour de Gambie, nous avons dit qu'il fallait en lâcher 10, conserver les 25 et maintenant prendre un peu sur ce qu'on avait comme meilleurs juniors pour venir renforcer le groupe. Et je pense que c'est ce travail de recrutement qui nous a permis d'avoir sur toutes les lignes ce qu'on a de meilleur ici au Sénégal et qui sont venus, qui ont tout donné au Diaraf en tous les cas pour pouvoir nous permettre de gagner ce titre-là souvent.
Alors, une question d'Aki.
Oui, Léonard, on s'est eu tout à l'heure au téléphone lors de la conférence de rédaction pour la préparation de cette émission. On voulait vous poser cette question. Donc effectivement, comme vous l'avez souligné, l'atout, ça reste effectivement tout l'effectif et tout le travail du staff. Vous me l'avez rappelé également tout à l'heure, vous vous améliorez d'année en année, de saison en saison. Quel a été l'atout majeur dans cet effectif? On a parlé tout à l'heure de ce gardien qui a été tout simplement qui avait remplacé le gardien de l'équipe A, Pape Ndiaye Seydou, qui avait affronté le Burkina Faso lors du dernier match de la sélection sénégalaise. Quel a été l'atout principal de votre club cette saison?
D'abord, c'est au niveau de l'axe central. Hein, que nous avons, la plus grande satisfaction nous vient du niveau de la défense. Parce que nous avions constaté l'année dernière que nous avons pris beaucoup de buts, ce qui faisait que même nous étions la deuxième meilleure attaque, mais malheureusement, nous étions la sixième des pires défenses. Donc, au niveau de la défense, nous avons beaucoup travaillé là-dessus, ce qui amène une certaine stabilité parce que nous ne prenions pas beaucoup de buts. Et maintenant, au niveau du milieu de terrain, comme je vous le disais tantôt, nous avons pu enrôler un joueur qui est vraiment bien, qui était à l'Union Sportive de Wakam la saison dernière et que nous avons enrôlé dans nos couleurs et qui nous a donné une entière satisfaction. À cela s'ajoutent maintenant tous ces jeunes espoirs qui étaient dans notre catégorie junior, qui avait fini de gagner la Coupe du Sénégal l'année dernière, que nous avons permis d'arriver, d'accéder dans l'équipe Fagnon. Et ces jeunes en ont fait un challenge, ils se sont donnés à fond. Et ce sont ces jeunes qui nous font plaisir tous les dimanches en nous marquant des buts et en nous permettant et de gagner le championnat et aussi de gagner la meilleure attaque.
Léonard, une question de Willy Dorkono.
Oui, bonsoir M. Diagne. J'aimerais savoir si vous disposez d'une cellule de formation. Parce que vous venez de parler des juniors, j'aimerais savoir si vous avez de la relève, parce que c'est très important.
Oui, bien sûr, nous avons toujours mis l'accent là-dessus, sur la petite catégorie, parce que nous, même avant d'aller recruter ailleurs, nous regardons qu'est-ce que nous avons dans notre grenier. Ici, nous l'appelons le grenier.
Okay.
Tout simplement, nous mettons un accent particulier sur cela, sur la petite catégorie, c'est-à-dire à partir des U15, des U17 et des U20. et qui nous donne entière satisfaction au niveau des différents championnats régionaux dont ils participent. Déjà, les juniors, hier, dans la matinée, ils avaient fini de dernier pour accéder en quart de finale des playoffs du championnat régional de Dakar.
Ouais.
Malheureusement, les cadets se sont fait éliminer en série de tirs au but. Les U15 participent couramment au tournoi des U15.
Ouais.
Et nous avons mis une cellule, que nous appelons la cellule des petites catégories, avec un staff assez autonome qui travaille, un directeur technique, des techniciens et tout cela. Et au plan administratif aussi, ils sont suivis. Et nous faisons la jonction entre ces deux groupes pour voir ce qu'ils font de bien. Et chaque année, on regarde les gosses qui sont les meilleurs pour les amener en tant que stagiaires au niveau de l'équipe soignante.
Bravo et merci beaucoup.
Christian Chango.
Oui, bonsoir et félicitations. Moi, ma question, elle est toute simple, c'est comment se prépare l'avenir, la suite, quel est l'objectif pour la saison à venir voilà, c'est ça ma question, vraiment. Quel est l'avenir maintenant que c'est bien parti pour votre équipe? Maintenant, quel est l'avenir à court terme?
Justement, d'autant plus que, Léonard, vous jouez la Ligue des Champions l'année prochaine.
Exactement.
Donc, quel sera l'objectif et comment vous allez faire? Parce qu'on va, de toutes les façons... Il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. 0155 07 58 00. Nous sommes avec Léonard Diagne, le secrétaire général du Djaraf de Dakar, qui vient d'être sacré champion du Sénégal.
Oui, alors les objectifs, comme on en parlait tantôt, c'est-à-dire que, comme nous l'avons dit, nous allons aller en Afrique, compte tenu de ce titre que nous allons gagner. Mais nous allons faire comme objectif majeur, d'abord au plan africain continental, de pouvoir accéder à la phase de poule, pour pouvoir avoir déjà une certaine stabilité, une certaine performance sportive pour le club, c'est de pouvoir accéder aux phases de poule. Mais cela n'empêche, au plan local aussi, nous allons continuer à travailler davantage, d'abord pour conserver ce titre, ou à défaut, de pouvoir gagner la prochaine Coupe du Sénégal, pour pouvoir retourner en Afrique, quels que soient les résultats que nous allons avoir durant cette campagne. Donc, les objectifs ne vont pas trop changer. Sur les deux trophées majeurs au plan local, nous allons nous battre pour en prendre un, et maintenant, mettre tout l'accent sur cette accession dans les phases de poule à la prochaine Coupe d'Afrique.
Alors, Léonard, est-ce que ça ne vous embête pas, vous, de voir que toujours au niveau du football sénégalais, il y a toujours un manque au niveau sur le plan africain? Alors, on a eu Génération Foot l'année dernière qui a fait ne serait-ce qu'un bon match à Dakar, mais au retour qui a été battu
par Berkane.
Ensuite, on voit plutôt que la plupart des joueurs bougent aussi du côté de certains clubs africains. Comment vous gérez tout ça? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de voir le football, les clubs sénégalais, vraiment être éliminés toujours dès le premier tour?
Oui, le premier constat qu'il faudrait faire de ces échecs répétitifs des clubs sénégalais au niveau de l'Afrique, c'est la difficulté qu'ont les clubs sénégalais de pouvoir conserver leur effectif. C'est ça un peu la véritable difficulté.
Ça risque de vous arriver aussi, alors, dans ce cas?
Voilà, justement, c'est à partir de là, nous avons analysé cette situation. Et nous nous sommes dit, pour cette présente saison, nous avons un groupe, nous avons travaillé avec un groupe, il ne sera pas question, par exemple, que nous libérions certains joueurs pour qu'ils aillent monnayer leur talent, alors que nous avons aussi un objectif à atteindre pour arriver à la phase de poule. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons dit, nous allons tenir une réunion d'évaluation, rencontrer certains joueurs qui peut-être sont en fin de contrat ou qui auraient l'idée de quitter le club, pour leur demander de rester ensemble avec nous pour qu'on puisse attaquer cette campagne africaine. Je pense que ça, c'est l'une des premières difficultés des clubs sénégalais qu'ils traversent dans les compétitions africaines. Et forcément, cette difficulté ne pouvant pas retenir de joueurs, il est difficile à certains clubs aussi d'aller prendre ce qu'ils ont de meilleur dans la sous-région, comme le font certains clubs, de par leur puissance financière. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui empêche aux clubs sénégalais de mieux se développer. Mais on touche du bois, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes en train de mettre en place une organisation qui va nous permettre, en tout cas, aussi bien de conserver nos joueurs, mais aussi de pouvoir aller vers la recherche de moyens additionnels afin que nous puissions faire face à l'Afrique.
Est-ce que réellement vous pensez que vous pouvez faire concurrence avec un tout-puissant Mazembe ou bien un Oroya? Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui?
Non, bien sûr. Quand vous regardez un peu le budget qu'a le TP Mazembe par rapport au nôtre, d'accord, il y a une différence. Mais en termes de qualité de jeu, de joueurs, nous pensons que pour un match en 90 minutes, on peut bien faire cette différence. Le problème, on va pas dire que nous sommes le TP Mazembe ou l'Oreya. Je pense que c'est toute une organisation qui est derrière. Les moyens, c'est pas un compte en banque rempli, c'est pas les poches pleines. Les moyens, c'est des idées. pour nous permettre, en tout cas, de pouvoir avoir ce budget. Je pense, comme les autres ont fait, nous sommes en train de réfléchir dans ce sens et nous donnons rendez-vous à l'Afrique lors de la prochaine saison, Inch'Allah.
Hakim.
Alors, en tant que spécialiste du football sénégalais, que pensez-vous justement de cette sélection sénégalaise pour le Mondial 2018 ? On a Pape Seydou Ndiaye, votre gardien titulaire, qui a fait partie du dernier match pour la rencontre face au Burkina Faso. Que pensez-vous de la sélection d'Aliou Cissé ?
Ben, je pense qu'on va respecter quand même le choix du coach. Il a fait confiance à des gosses avec lesquels il a eu à faire pratiquement toutes les phases qualificatives. Et quand on voit sa liste des 23 qu'il a retenu parmi les 35, ben on se rend compte que c'est le même groupe avec lequel il a travaillé depuis qu'il est là, depuis 2015. Donc c'est un problème d'option, de choix. Moi, je dis simplement que ce sera au gosse, au-delà d'Aliou Cissé, ce sera au gosse de prouver de quoi ils sont capables. Parce qu'il n'est pas donné à un footballeur durant toute sa carrière de jouer à une Coupe du Monde. Donc quand cette opportunité vous est offerte, en tant que joueur, je ne pense pas que ce soit le coach qui va faire le match. Ce sera aux joueurs d'une manière individuelle et qu'ils assemblent tout cela pour que collectivement l'équipe tienne et qu'ils nous fassent une bonne participation à cette Coupe du Monde.
Alors, dernière question avant qu'on vous lâche, M. Léonard Diagne. Vous avez dit que votre objectif pour l'année prochaine sur le plan international, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Clubs, ce sera au moins arriver en phase de poule. Ce serait une première pour le Djaraf, parce que le Djaraf, quand même, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas retrouvé. 83, qu'elle n'a pas retrouvé la scène africaine. Est-ce que ce n'est pas un objectif trop grand pour vous ou bien rester plutôt dans la Coupe de la Confédération, ce n'est pas mieux ?
Non, pas du tout. Attention, je dis, le palier le plus haut que nous avons atteint dans les compétitions africaines, demi-finale de Coupe d'Afrique en 83. Ceci dit, de 83 à 2018, nous avons fait plus de 10 participations africaines. La dernière, elle remonte à 2011. Où nous avions été éliminés au troisième tour, au troisième et dernier tour, par l'Espérance de Tunis, reversé à la Coupe CAF.
Oui, Coupe CAF, justement.
Le Djaraf a une expérience de la compétition africaine.
Oui, c'est
le
pour ça.
C'est au niveau peut-être de l'organisation. C'est pas 83, c'est en 2011 que nous avons quitté la dernière compétition.
Oui, on a rappelé
c'est bien ça.
La plus haute position.
Exactement. Non, mais moi je dis entre la Coupe d'Afrique des clubs champions et la Coupe CAF, je crois qu'il y a un choix à faire par rapport à vos moyens actuellement. Je pense que c'est une question que je pose.
Mais ce n'est pas un choix que nous allons faire, nous. C'est un choix qui nous est imposé par la CAF. À partir du moment où nous sommes champions du Sénégal, nous nous devons de ne compétir qu'à la Champions League.
Oui, tout à fait.
Nous ne pouvons pas continuer à la compétition CAF. Ce n'est pas un choix que nous allons faire. C'est parce que nous sommes champions du Sénégal que la CAF, on est obligé, en tant que champion de ce pays, de représenter le Sénégal à la prochaine Champions League.
Tout à fait.
La Coupe du Sénégal, représentant le Sénégal à la Coupe CAF.
Mais vous n'êtes pas reversé en cas d'élimination. En cas d'élimination, je ne vous le souhaite pas, justement.
Vous êtes reversé.
Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que.
C'est que vous êtes reversé.
Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que je dis que est-ce que dans le cas d'une Coupe d'Afrique des clubs champions, ce qui serait beaucoup plus abordable pour vous, ce serait peut-être de jouer, même je ne souhaite pas que vous soyez éliminé, mais jouer à fond une coupe de la CAF qui est peut-être à un niveau un peu plus inférieur que la coupe des clubs champions. Non ? Vous ne pensez pas ?
Non, je ne pense pas que c'est la ligne là, je ne suis pas d'accord
avec ça. Il a raison.
C'est intéressant.
C'est une obligation pour nous. Vous savez pourquoi ?
Non.
Nous sommes qualifiés pour jouer la Champions League.
Oui, tout à fait, ça on est d'accord.
La Champions League, c'est deux matchs en aller et retour pour arriver en phase de poule.
Oui.
Si par extraordinaire, au deuxième match qualificatif, vous vous faites éliminer, c'est à partir de ce moment que vous êtes reversé à la compétition confédération CAF.
Oui, bien compris.
Cela ne dépendra plus. Nous allons jouer nos chances au maximum.
Voilà, c'est ça que je voulais entendre.
Ces deux matchs, nous allons tout faire pour accéder aux phases de poule. Nous n'en pouvons pas un objectif pour dire par force nous allons être. En tous les cas, compte tenu de nos moyens, compte tenu de notre organisation, notre souhait aujourd'hui est d'accéder en phase de poule. Pour ce faire, nous avons deux matchs à gagner en aller et retour pour y accéder. Si par la grâce de Dieu, nous y accédons, on aurait atteint notre objectif. Si nous sommes reversés maintenant à la Coupe CAF, eh bien, nous allons changer le fusil d'épaule et continuer cette compétition pour aller le plus loin possible.
Très bien. Alors, Autre question, messieurs.
Oui, mais il peut pas. Mais c'est normal que Monsieur Diagne ne peut pas souhaiter jouer le second rôle.
Non,
mais
non, mais non. La question est intéressante.
Mais la question n'est pas intéressante parce que vous voulez qu'il fasse un choix anti-sportif.
Non. Par rapport à ce que disait Lamine, c'était pas ça. C'était effectivement de se dire si en cas de complications lors de la phase de groupe, phase de poule, pardon. En match aller-retour, comme le soulignait aussi Léonard. Et ce que disait Lamine, c'était est-ce qu'il ne serait pas plus opportun miser sur la Coupe de la Confédération africaine
pour arriver en finale.
Mais les objectifs, on les a entendus.
C'est chaud, monsieur Diagne, dans le studio.
On ne peut pas aller à la Coupe CAF, d'autant plus que nous ne sommes pas vainqueurs de la Coupe du Sénégal. Participe à cette course de la Coupe de la Confédération, ce qu'on appelle la Coupe CAF, que les clubs africains qui ont fini de gagner la Coupe de leur pays, la Coupe nationale.
Oui.
La Coupe nationale, et notre compétition est réservée aux champions.
D'accord.
Champion du championnat.
Donc, d'accord.
Étant champion, nous ne pouvons pas penser à une autre compétition dont nous ne sommes pas engagés.
Non, mais.
On ne peut reverser qu'à l'issue des résultats.
Mais c'est bien ce que je dis. Parce que le souci, c'est que quand je vous ai posé la question concernant un peu le niveau financier des deux équipes, il y a un problème par rapport à Oroya, par rapport au tout-puissant Mazembe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils ont plus de moyens. D'accord. Les budgets sont un peu plus différents. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à un moment donné où eux, ils peuvent se payer tout ce qu'ils veulent et que vous, à un moment donné, c'est comme le PSG ici et les autres. Bon, arriver à un moment donné, mais sur le terrain, moi, je ne vous souhaite pas du tout de perdre. Au contraire, je suis un supporter du Diaraf de Dakar que j'ai suivi depuis que j'étais tout petit. Mais imaginons, et que je ne le souhaite pas, que vous soyez reversé à la Coupe CAF. Par rapport au fait que malheureusement, ça n'a pas marché. D'accord? Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas dans quel groupe vous allez tomber. Mais est-ce que cette coupe de la CAF, où vous avez été reversée, n'est pas une ambition pour vous pour remporter cette coupe CAF? Voilà ce que je voulais dire par rapport à ma question.
Ah si.
Voilà.
Non, là, vous avez mieux reformulé votre question. Là, je ne suis pas seulement d'accord avec vous. Ouais. Si on est reversé dans cette coupe, c'est sûr que nous allons aller à fond, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Voilà.
Pour remporter, au moins, aller le plus loin possible. Faire peut-être ce que la gendarme de Dakar a fait. Voilà. Pour arriver en finale d'une coupe CAF.
Voilà, c'est ça.
Ce serait toujours un privilège pour nous. Et ça permettrait justement à notre pays de pouvoir gagner une autre place qualificative.
Exactement.
Pour l'instant, depuis ce plan d'attaché, le Sénégal n'a que 2 représentants en Afrique. Alors que dès lors, à part les performances de la gendarme en Afrique, nous en avons eu 3. Donc je pense que ça aussi, c'est un challenge à aller chercher.
D'accord. Ben, on va aller du côté du Standard. Restez 2 minutes avec nous, puisqu'il y a le Standard qui sonne. Monsieur Salim, bonsoir Salim.
Bonsoir Coach Lamine et bonsoir à tous.
Bon, salut. Nous sommes avec donc Léonard Diagne, le secrétaire général du Diaraf de Dakar qui vient d'être sacré, ou qui va être sacré, c'est bien ça, puisque personne ne peut vous rattraper.
Ouais, on est déjà sacré.
Sacré, voilà. Champion. Sacré champion du Sénégal, Salim, peut-être une question à Monsieur Diagne.
Oui, Monsieur Diagne, bonsoir. Tout à l'heure, je voulais rebondir en fait sur la question du Coach Lamine qui disait que si jamais, malheureusement, ce qu'on ne souhaite pas, vous ne passez pas les tours de la Champions League, il faudrait se pencher sur la Coupe de la Confédération. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas un gros écart entre le niveau de la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions. Puisque quand on regarde les derniers vainqueurs, c'est TP Mazembe, c'est Al Ahly d'Égypte, c'est Étoile du Sahel, etc. etc. Donc bon, moi je dis, c'est pas Coach Lamine, moi je suis pas trop d'accord avec toi sur ce point-là. Il faut se concentrer sur ce qu'on joue.
T'as raison,
Salim. Il faut se concentrer sur ce que l'on joue.
Heureusement que tu as le droit.
Moi je veux revoir un club sénégalais dans le dernier carré. Puisque la dernière fois, moi je me souviens, c'était la gendarme de Dakar qui est arrivée en demi-finale à la Ligue des Champions en 2004. Je m'en souviens très bien. Donc moi j'aimerais revoir, là ça fait maintenant combien? Ça va faire maintenant 14 ans qu'on n'a pas vu une équipe dans le dernier carré de la Ligue des Champions sénégalaises. Alors moi j'aimerais bien voir, je vous souhaite à vous, j'espère que vous allez faire le nécessaire pour y arriver. En plus la formule maintenant de la Ligue des Champions c'est moins compliqué parce qu'il y a moins de matchs aller-retour. On intègre les phases de groupe après 2 matchs aller-retour. Ça veut dire que les phases de groupe, ce sont les huitièmes de finale, alors qu'avant, les phases de groupe, c'était les quarts de finale. Donc, c'était un parcours du combattant pour y accéder, et là, ça n'est plus le cas. Donc voilà, je vous souhaite de bien négocier tout ça. Et moi, j'ai envie de dire que vous n'avez rien à envier aux autres équipes africaines. Vous êtes le sortant du championnat du Sénégal. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des équipes botswanaises, il y a des équipes du Swaziland qui sont actuellement, Township Brawlers, etc., qui sont actuellement en phase de groupe. Donc vous pouvez très bien accéder aux phases de groupe.
Il
voilà.
y a même le Togoport, alors. Donc,
il y a tout le monde. Ouais, Togoport a sorti Al Hilal. Hein. Donc c'est une très très grosse performance. Et ils les ont sortis au Soudan. Donc tout le monde peut y accéder à ces poules.
Alors on va laisser M. Léonard répondre à Salim. Oui, Salim. Oui, M. Léonard.
Salim, c'est plus une contribution. Hein. En fait, c'est plus une contribution et des souhaits qu'il aimait pour voir une équipe sénégalaise arriver dans le carré basse. Mm-hmm. Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avions déjà commencé le travail. Nous savons ce qui nous attend, nous savons ce qu'il y a lieu à faire. Maintenant, avec l'accompagnement de la fédération, de l'État et tout, et de tous nos partenaires, nous pensons en tout cas pouvoir faire une très bonne Coupe d'Afrique pour permettre quand même au Sénégal d'arriver dans cette phase de poule et pourquoi pas d'aller vers le carré d'as.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, en plus, je pense que si le Sénégal gagne la Coupe du Monde, il y aura beaucoup d'argent pour les clubs, là, il me semble.
Ouais, bien sûr, gagner la Coupe du Monde, on verra. En tous les cas, qu'on fasse une très bonne participation.
Ouais, exact.
Hein, si on peut encore déjà dépasser celle qu'on a faite en 2002, ce serait déjà gagné en Coupe du Monde.
C'est-à-dire en demi-finale.
Cette deuxième participation, certainement, va générer des retombées pour le football sénégalais. Mm-hmm. Utilisé à bon escient, je pense que le football sénégalais se développera davantage.
Très bien, merci beaucoup, M. Diagne. En tout cas, utilisé à bon escient, il a dit, c'est très, très bien. Bon. Très important. Merci beaucoup d'être venu sur la radio africaine.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et merci à vous. Merci à vous.
Merci.
Et bien des choses et à plus.
Merci. Merci beaucoup. Messieurs, voilà, nous avions donc...
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Monsieur Léonard Diagne, donc secrétaire général du club mythique du Djaraf de Dakar. Un club exceptionnel, monsieur. Ouais. Voilà. Donc, nous allons passer, Christian Chango, aux listes, hein.
Aux listes, oui, bien sûr, on va commencer. Bah, vu qu'on a Salim qui est encore avec nous, on peut passer sur la liste de la Tunisie, si vous êtes d'accord. On va donner. Donc aujourd'hui, déjà, on va rappeler qu'aujourd'hui, donc lundi 4 juin, c'était la date butoir pour tous les sélectionneurs des 32 équipes pour donner donc la liste définitive. Et donc là, du coup, on a voilà toutes les listes sous nos yeux. Et puis, bah, on va commencer par la liste de la Tunisie, vu que Salim est présent avec nous. Donc au niveau des gardiens, donc au niveau des 23, donc Moez Hassan, Ayem Matloussi, Farouk Ben Mustapha. Au niveau des défenseurs, Hamdi Nagez, Dylan Brown, Rami Bedoui, Johan Benalouane, l'ami de Salim, Siam Ben Youssef, Yassine Meria, Oussama Adadi et Ali Mahaloul. Au niveau des milieux de terrain, Elias Skiri, Mohamed Amin Ben Amor, Galien Chalali. Désolé pour la prononciation. Ferjani Sassi, Ahmed Khalil, Sefidine Kraoui, Wabi Kazri aussi. Et au niveau des attaquants, donc Ben Youssef, Anis Badri, Bassem Sarfi de Nice, Naïm Sliti et Saber Khalifa, l'attaquant du club africain.
C'est donc une liste qui a été confirmée et donnée par Nabil Maloul. Salim, un petit commentaire par rapport à cette liste ?
Alors, un petit commentaire, oui, par rapport à cette liste des 23. Donc, il y a eu une surprise, c'est la non-présence d'Ahmed Akaïchi, parce que c'est le seul vraiment attaquant de pointe, le numéro 9. Mmh. Il n'a pas été appelé, donc la Tunisie...
Est-ce qu'il y a une raison ? Ouais. Parce qu'il semblerait qu'Akaïchi ait vendu la mèche déjà sur les réseaux sociaux par rapport à cette liste-là.
Oui, il a déjà... Ouais, il a déjà vendu la mèche. Exactement, il a déjà vendu la mèche parce qu'il était sûr d'y participer. Puisqu'il a joué contre le Portugal, il est rentré à la fin du match. Mmh. Et c'est le seul avant-centre pur. C'est le seul avant-centre pur. Il n'y a pas de neuf. Khalifa, c'est pas un neuf. Kazri, c'est pas un neuf à la base. Fakhreddine Ben Youssef non plus. Donc la Tunisie ira au Mondial sans avant-centre.
Donc, il y a également Karim Leribi qui évolue au Calcio. Ça... En Italie, ouais, qui a été écarté parmi les milieux de terrain.
Ouais, ça, j'ai pas compris, parce que Karim Larribi est vraiment talentueux.
Belle saison.
Il était déjà là, il a fait une belle saison et tout. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. En fait, il y a deux joueurs. La liste est bien, j'ai rien à dire. Mais il y a deux joueurs, Benalouane et Kawi. Alors Ben Alouane, lui, il est réserviste à Leicester et il a fait un seul match cette année à Leicester. Donc je l'ai vu avec l'équipe nationale, contre l'Iran, c'était pas bon. Contre le Costa Rica, il n'était pas là, c'était Ben Youssef, heureusement que c'était Ben Youssef. Contre le Portugal, c'était très moyen. Donc je comprends pas pourquoi il continue à titulariser, il manque de rythme, il est pas bon. Ouais. Donc il a pas appelé Abdennour. Bah si t'appelles pas Abdennour, tu remplaces par un joueur qui joue.
Mais Abdennour non plus n'est pas bon, hein. Je peux dire Abdennour non plus n'est pas bon aussi, hein. Parce qu'il a ciré le banc pendant longtemps. Hein.
Oui, mais Ben Alouane, il a ciré les tribunes. Je préfère ciré le banc que les tribunes. Ben Alouane, il a vu un match cette année. Abdennour, il a fait plus de 10 matchs. Donc on remplace pas Abdennour par un joueur qui joue moins. En plus Ben Alouane, il a 30 ans. Donc ça n'a pas de sens de l'appeler. Je veux dire, moi je préfère appeler un joueur qui joue. Il y en a plein des joueurs au championnat tunisien qui jouent. Et j'espère qu'il va titulariser Siam Ben Youssef, de toute façon, qui est titulaire à Kasım Pasa en Turquie. J'espère qu'il va le faire jouer lui. Et Kawi, le joueur de Troyes, que Marseille a mis en vente là, il fallait pas l'amener, il n'a pas le niveau. Il a joué là, heureusement.
Ah, il a marqué combien de buts, Christian Chango, Kawi?
Avec 3, il en a mis une dizaine à peu près.
Alors, combien vraiment, ouais, Salim
Moïse Ben Chérifa aussi, hein, parmi les absents, Moïse Ben Chérifa, ouais. Le gardien de l'Espérance de Tunis.
Ouais, ouais. Non, mais coach, Kawi, il n'a pas le niveau international. Kawi n'a pas le niveau international. Ben Amor, Chalali, tout ça, c'est au-dessus largement. Les joueurs de l'Espérance, les joueurs qui jouent en Tunisie sont largement au-dessus de Kawi qui joue à 3. Kawi vient d'être mis en vente là, par Marseille. Ils n'en veulent plus de Kawi, il n'est pas bon. Il n'a pas niveau international, il n'y a que deux joueurs. Sinon, tout le reste, la liste est très cohérente. J'ai rien à dire. Mais ces deux joueurs-là, je ne comprends pas. Laisser Kawi et prendre Kawi et laisser Larrivé à la maison, alors que Larrivé est largement plus fort que Kawi. Et Ben Alouane n'a pas sa place. Ben Alouane n'a pas sa place dans les 23. Ah, c'est tout. Ouais. Et en plus, c'est un casseur. Ben Alouane fait beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Parce qu'il est en retard. Parce qu'il n'a pas de rythme. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de fautes. Donc il faut se rassurer en défense. Le point faible de la Tunisie cette année, c'est la défense. C'est du jamais vu. La Tunisie, maintenant, joue au football. C'est une révolution.
Mais
Tunisie joue au football.
Au niveau des matchs amicaux qu'on a vus jusqu'à présent de la Tunisie, ça a été comment?
Il y a eu 2-2 contre le Portugal.
Alors, 2-2 contre le Portugal.
Et 2-2 contre la Turquie aussi.
Ouais. Voilà. Donc,
c'est un bon parcours.
C'est un bon parcours. Au niveau défensif, il faut le faire face au Portugal.
Oui, mais
ça va pas. Excuse-moi, doyen Willy. Ouais. La défense, ça va pas, coach Lamine. Notre défense est devenue notre point faible, alors que c'était notre point fort pendant des années. Par contre, on joue au football parce qu'on a un très très bon milieu de terrain. Mais la défense, ça ne va pas. Et c'est pas avec Ben Alouane que ça ira mieux. Il faut titulariser à côté de Meria. Il faut titulariser Siam Ben Youssef ou bien Bedoui qui joue à l'Étoile du Sahel, qui est plus fort que
Rami,
Ben Alouane.
Ouais.
Parce que Ben Alouane ne joue pas. Voilà. Ben Alouane ne joue pas. Il a joué un match cette année, un seul match. Donc un joueur qui joue un seul match ne peut pas jouer pour tout le monde, normalement.
Quand tu prends des joueurs qui ont peu de temps de jeu ça reste des rencontres amicales, mais c'est vrai que c'est assez étonnant les choix qui sont faits par rapport à des joueurs qui ont peu ou pas été utilisés par leur club respectif.
Mais non, mais ça à la limite, ouais. Ça on peut pas, on mise toujours sur des joueurs dont on se dit voilà.
Et peut-être que le coach connaît mieux les joueurs que nous.
Exactement, c'est ça que je veux dire. Ouais. Parce qu'un joueur qui a 30 ans pourrait servir toujours à calmer le vestiaire, à regarder le vestiaire. Parce que cette moyenne d'âge de l'équipe, c'est pas une moyenne d'âge de 40 ans quand même. Hein. Je veux dire, c'est des jeunes joueurs qui sont là.
Oui, mais
pas
en football, ouais. Il faut de l'expérience aussi.
Mais exactement. Donc, ce joueur, comment on appelle
Ben
ça
Alouane.
Ben Alouane, qui a une trentaine d'années, je crois.
Il n'y a pas besoin de lui, il y en a d'autres qui ont 30 ans. Il n'y a pas besoin de lui. Hein. Ali Mahloul, c'est un cadre.
Moïse Ben Chérifa.
Ben Chérifa, il est sorti de la liste, mais Matlouti, ouais. Qui est remplaçant. Matlouti qui a perdu sa place, il est là, il a plus de 30 ans. Il y en a des doyens, Saber Khalifa, il a 32 ans. Il a 32 ans maintenant, Saber Khalifa. Il y en a qui peuvent encadrer tout ce monde-là. Les joueurs, il y en a qui ont 25, 26, 27 ans. Bah, on n'a pas besoin de Ben Alouane. Il n'y a pas besoin de lui. Et en plus, ce qui fait mal, par exemple, Moïse Hassen, qui est gardien, qui joue à Châteauroux. Ouais. Lui, il a été pris, il a été titularisé parce que Matlouti a baissé. Donc forcément, il faut le remplacer. Donc moi, je ne suis pas contre. Je veux dire, il faut être juste. Mais remplacer Abdennour par Ben Alouane, c'est-à-dire remplacer Abdennour par plus faible, c'est pas normal.
Bon, en tout cas, voilà. Ça c'est votre point de vue. Mais Christian Chango, quand il parle de Kawi quand même, c'est quand même un des joueurs les plus intéressants au niveau technique, sur le plan technique quand même.
Disons que c'est sur cette saison-là, je t'ai dit qu'il a mis 10 buts, il a mis 5 buts cette saison avec.
Il a mis 5 buts, il a fait 6 6 mois.
Avec 3, il a mis 5 buts. 3, ouais. Moi, personnellement, je trouve que pour le niveau international, ça peut être un peu léger. Il a pas de référence encore, alors qu'il y en a, y a des joueurs qui évoluent du côté du continent, qui ont déjà des références, qui ont déjà été appelés dans le groupe et qui ne sont pas là. Donc, c'est le choix du sélectionneur. Hein. Il faut respecter donc les choix de M. Mahaloul. Mais je trouve quand même que dans l'exemple de Kawi, Saïf Eddine Kari, donc je trouve que quand même, il manque un peu d'expérience pour le haut niveau, pour le très haut niveau. Après, il a été pris et je souhaite qu'il nous surprenne et qu'il nous fasse ravaler notre cake. Mais il y a quand on voit certains qui sont laissés sur le côté, on peut se dire que voilà, dans cet exemple-là précis, c'est un choix discutable. Encore une fois, après, comme le doyen et comme on le dit, c'est le coach, le sélectionneur qui est en place et lui connaît mieux les joueurs, il les a vus évoluer ensemble. On a vu tout à l'heure du côté de l'Allemagne, il y a un joueur, Leroy Sané, qui n'a pas été sélectionné. Mm-hmm. Pourtant, quand on voit sa saison avec Manchester City, on se dit que c'est indiscutable. Ouais. Mais après, quand on entend la déclaration du sélectionneur et qui explique que c'est en termes de avec la sélection, il n'a pas été bon et tout. Donc, une fois encore, c'est le sélectionneur qui a le dernier mot et qui, lui, voit les joueurs pour après juger.
On le rappelle, un Saïf Eddine Kawi qui n'est pas retenu par l'Olympique de Marseille, qui a précisé qu'il ne retiendra pas en fait son milieu offensif en cas de voilà si un club qui est intéressé.
Là, ils sont en train de chercher un peu ce qui se passe du côté de Manchester City avec l'Ivoirien.
Yaya Touré
qui est parti. Venir. Mais moi, quand je regarde un peu rapidement avant qu'on ne passe à la pub, mais quand je regarde un peu le parcours de la Tunisie, mais aux éliminatoires, la Tunisie a encaissé que 4 buts. Au niveau attaque, mais alors donc au niveau attaque, quand tu as Sliti, quand tu as comment on l'appelle, Badri et Kazri, je pense que il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire. Ne serait-ce que répondre ce qu'ils ont répondu face au Portugal en marquant 2 buts et contre l'autre équipe, la Turquie, 2 buts. Je pense que c'est quand même abordable. Comment vous voyez les chances de l'équipe de Tunisie ? On se reprend tout de suite après la pub.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Sur la radio africaine 107.5 avec Hakim Djelouat, avec le doyen Willy Delcono, avec Christian Chango et avec Salim, avec qui nous sommes en train de décortiquer cette équipe de Tunisie. Alors Salim, lui, il n'y croit pas du tout parce qu'il n'y a pas Sakni. Il n'y a pas Sakni.
Ah ça,
oui, ça.
Il n'y a pas de Sakni, mais j'y crois. Pourquoi je ne crois pas? J'y crois.
Pour toi, la défense, elle est zéro. Bellaouane, elle est zéro.
Benalouane est zéro, c'est un constat.
Mais bon.
Non, coach, c'est un constat, c'est pas un avis. C'est un constat. Benalouane, c'est pas normal de jouer un match dans une saison et être sélectionné et ne pas avoir de rythme. Ça, c'est pas normal. Et Kawi, il est pas bon. Il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui.
Donc, donne-nous les noms de certains joueurs qui peuvent vraiment régler le problème de la Tunisie. Moi, en tout cas, je sais que Sliti, Badri et Kazri, voire même Ben Youssef. Hein,
voilà, ça c'est les valeurs sûres, mais le milieu de terrain, surtout le milieu de terrain, Sassi.
Parce que lui, le coach va jouer en 4-2-3-1.
Il va jouer soit en 4-3-3 ou soit en 4-2-3-1, ça va dépendre
de l'adversaire, je pense. Hein.
Ouais, et surtout de la disponibilité de Kazri, parce que Kazri est toujours blessé. Donc je sais pas s'il va être apte pour le match contre l'Angleterre. Apparemment, il doit revenir contre l'Espagne, mais il y a des doutes. Et c'est lui qui sera l'avant-centre de l'équipe nationale. Donc la Tunisie va jouer sans avant-centre pur.
Comment ça, Saber Khalifa, lui, c'est pas un avant-centre alors?
Non, il joue sur le côté.
Quand il jouait ici, il était avant-centre. Hein.
Non, mais coach, c'est vrai, il joue avant-centre au club africain. Mais en équipe nationale, non. Il veut le mettre sur le côté, Mahaloul. Il veut pas le mettre en neuf. Donc le truc, c'est qu'en fait. Le danger offensif du côté tunisien pour l'adversaire, c'est Badri. Badri, lui, il a marqué 2 buts, là, un contre le Portugal, un contre la Turquie. Il est en forme, c'est lui qui met le 2-2 à Kinshasa et tout, c'est un peu lui le héros national, et qui est très bon en plus, qui joue à l'Espérance sportive de Tunis. Donc ça, c'est de lui que viendra le salut, je pense.
Oui,
après, Badri est ici aussi.
Oui, et Salem, tu sais très bien que les buts ne viennent pas de devant, et ça vient de derrière. Donc, il faut avoir de bons milieux de terrain.
C'est ça qui compte. Et puis, je crois que quelque part, en tout cas, il y a une question d'animation de jeu. Si l'animation de jeu est bien faite, et puis il n'y a pas de problème.
Il y a du beau jeu en Tunisie, il y a un très bon milieu de terrain, c'est ça que je dis. Le milieu de terrain, j'ai rien à dire, c'est la force.
Mais c'est ça qui compte, Salem.
Ouais. avec Sassi, Ben Amor, ouais. Et avec Skiri, et avec Chalali qui peut jouer, qui peut rentrer, le joueur de l'Espérance de Tunis. Et, voilà, et comme par hasard, c'est Loco qui tire l'équipe vers le haut. Et il y a Maloul à gauche, qui joue à Alali en Égypte.
Ali Maloul
oui, Ali Maloul qui va jouer titulaire à la place de Haddadi. Haddadi qui joue à Dijon, Maloul qui joue en Égypte, et Maloul qui est plus fort. Donc c'est Maloul qui jouera à gauche. À droite, ça va être Nagez, ou bien Brown, ça dépend. Ou Nagez ou Brown, ça dépend. S'il veut jouer défensif, il mettra Brown. Sinon, ça sera Nagez, l'arrière-droite du Zamalek. Et voilà, il y a une équipe pour jouer au ballon. Ils savent tous jouer au ballon.
Mais en tout cas, ce que je peux vous donner comme information, ouais. C'est que c'est une équipe qui cavale, qui court beaucoup. Figurez-vous que lors des éliminatoires, elle a parcouru combien de kilomètres ? 6371 kilomètres, soit 3,5 fois la distance entre Paris et Djerba.
Ah ouais, mais c'est ça qui fait que... c'est ça qui fatigue l'adversaire. Hein.
Il cavale, mais après...
Il cavale.
Mais en tout cas... Coach, c'est qu'il joue au ballon. Il joue au ballon comme avant. Comme les belles années avant, la Tunisie. Quand ils jouaient bien au ballon, là, quand toi, tu étais en Afrique du Sud et tout. Tu te souviens, coach Lamy,
ouais, ils ont joué la finale.
Les années 90.
Voilà. Ouais, ils ont joué la finale.
Même 78, etc. Ils jouent comme ça. Ils jouent un peu technique. Et c'est ça qui est bien. Et on verra. Maintenant, j'attends de voir, c'est tout.
Ouais, mais...
Ouais.
Voilà, hein.
Ouais. On verra bien. Donc, tu leur donnes combien de chances de sortir de la poule ? Faut rappeler la poule, là, d'ailleurs ?
Angleterre. Premier match lundi prochain contre l'Angleterre.
Ça va être compliqué.
Deuxième match contre... Non, contre l'Angleterre, c'est possible. C'est possible contre l'Angleterre, ça va être ouvert. Après, contre la Belgique, aussi, il faudra jouer crânement sa chance, le deuxième match. Et troisième match contre le Panama. Moi, je suis confiant. Je donne 50% de chance à la Tunisie de passer les poules.
Mais c'est ce qu'on disait un peu de la Tunisie quand elle s'est déplacée, quand elle devait rencontrer la RDC. Christian Chango ne me fera pas mentir. On leur prévoyait Fimbou Chicotte, mais vous avez vu, finalement...
Oui, mais c'est...
Finalement, ce sont eux qui sont sortis quand même.
On ne revient pas sur ça.
Si, ce sont des références.
Oui, mais parce que la RDC n'avait pas envie d'aller à la
Coupe du Monde. Oui, mais bon, ça, c'est tout autre chose, ça.
Oui, mais... C'est ce que j'ai vu.
Au milieu de terrain, c'était au-dessus, la Tunisie. Dans ce match-là, à Kinshasa, quand Chancel Bemba n'était plus là, il n'y avait plus de milieu de terrain en RDC. De toute façon, en RDC, le problème, c'est le milieu de terrain. Et la Tunisie avait gagné cette confrontation au milieu de terrain, comme le disait Doyen Willy.
Oui.
Le plus important, c'est le milieu de terrain. Donc, la RDC avait perdu le match au milieu de terrain. Mais bon, là, maintenant, c'est un autre contexte, parce que l'équipe ne joue plus de la même manière, etc. Mais moi, je donne 50% de chance de passer cette poule. Et il faut dire, l'Angleterre et la Belgique, c'est pas l'Espagne, c'est pas le Brésil, c'est pas l'Allemagne, d'accord ? L'Angleterre et la Belgique, c'est des grandes équipes, ok, mais ça va, quoi, on peut faire match avec eux, n'importe quelle équipe africaine peut faire match avec eux, et il faut y aller pour gagner.
Okay.
Le Pérou, ça fait maintenant 28 ans qu'ils n'étaient pas en Coupe du Monde, aujourd'hui, ils aspirent à aller en quart de finale ou en demi-finale. Pourquoi nous, en Afrique, on ne ferait pas la même chose ? Bah, moi, j'ai envie d'aller le plus loin possible.
Oui, mais c'est normal, on est un sport, il faut aller loin, mais c'est tout.
Voilà, il faut qu'on ait cette mentalité-là en Afrique,
oui.
Et puis c'est tout, on a tous nos chances, tous les Africains, on a tous nos chances.
Ouais.
Ok pour la Tunisie et on va passer à l'Égypte maintenant.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Alors messieurs, la liste de l'Égypte, hein, vraiment,
oui.
Avec derrière Oum Kalsoum si c'est possible.
La liste des 23 de l'Égypte de Hector Cooper. Alors on va commencer tout de suite par le doyen Essam El Hadary dans les cages, Ahmed Fatih, Sherif Ekrami, Mahmoud Shikabala, Ahmed El Mohammadi, Abdallah El Said, Mohamed El Abdel Shafi, Ahmed El Ghazi, Mohamed El Neni, Mohamed Salah, Marwan Mohsen, Omar Gaber, Saad Samir, Tarek Ahmed, Mahmoud Kahba, Mahmoud Trezeguet, Ali Gbar, Ramdan Sobhi, Hamar Warda, Ayam Ashraf, Sam Morsi, Mohamed El Chenawi et Mahmoud El Mouesh. Désolé pour la prononciation et voilà. Les 23 donc, de l'Égypte donnés donc, par Hector Cooper donc, sur la liste finale. Hein, donc 6 joueurs écartés. Et là, puisque au départ, ils étaient 29.
Alors, ce qu'il faut dire sur cette équipe égyptienne, c'est que moi, j'y crois, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des. Il y a des joueurs qui sont exceptionnels dans cette équipe, très aigués, je veux dire. Mais il faudrait qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé pour Mohamed Salah. Finalement, est-ce qu'on a des informations pour savoir s'il sera bien apte à jouer cette Coupe du Monde ou pas?
Il a dit lui-même qu'il allait rapidement revenir. Mais l'Égypte, pourquoi on a confiance en l'Égypte? Simplement parce que c'est des battants, ils ont des fighting spirit. C'est un pays qui a une tradition anglo-saxonne. Et à chaque fois qu'ils sortent à la Coupe du Monde, ou bien sur le plan international, ils font toujours de bonnes prestations. Mm-hmm. Depuis 1934, la première Coupe du Monde, ils n'ont pas été ridicules. En 1990, quand ils étaient à la Coupe du Monde, on les a oubliés. Simplement parce que le parcours du Cameroun a mis de l'ombre sur leur parcours. Ils ont fait 1-1 contre la Hollande, la vraie Hollande. Hein, et ils ont fait 0-0 contre l'Irlande. Ils ont perdu face à l'Angleterre d'un petit but. Donc, c'est une équipe en laquelle moi j'ai beaucoup confiance.
Ouais. Bah, vas-y, Hakim, vas-y.
Vas-y, Christian, je t'en prie.
Bah, écoute, juste moi, sur l'équipe d'Égypte, bah, écoute, là, je regarde le groupe. Donc, les groupes d'Égypte, hein, c'est le groupe A avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. L'Égypte a une chance de sortir, mais très honnêtement, pour moi, s'ils sortent de ce groupe, ils n'iront pas plus loin que les huitièmes de finale.
Ouais, ça, c'est peut-être clair.
Je m'explique. On se rappelle le jeu que l'équipe d'Égypte avait à la CAN. Donc, c'était 10 joueurs et Mohamed Salah. Donc, c'était vraiment un bloc défensif costaud, ça il faut. Là-dessus, il y a une vraie base défensive, mais après, derrière, dans le jeu, c'était que moi, à titre personnel, je trouve quand même ça très pauvre. Là, on a vu sur les derniers matchs amicaux, c'est une défense très rugueuse, beaucoup de fautes, on tacle à la gorge, on coupe des jambes, mais après, c'est des longs ballons devant. Quand vous avez Mohamed Salah qui est en feu, d'accord, là, ça peut fonctionner, mais franchement, je trouve quand même le jeu égyptien, à la CAN, ça a fonctionné. C'était comme ça qu'ils ont été en finale, mais je coach. Personnellement, vraiment, je trouve que le jeu
c'est sûr, c'est sûr que c'est pas un jeu spectaculaire.
Ouais, tu peux pas écouter alors. Ouais, ils ont un jeu anglo-saxon. Là, du coup, ils font le kick and rush. C'est leur jeu, ça.
Oui, je suis d'accord. Mais
c'est pas spectaculaire.
C'est ça. Mais à la limite.
Mais on n'est pas au cirque.
À la limite, si c'est pas spectaculaire aussi, et que ça va loin dans la compétition, je signe tout de suite. Mais très honnêtement, les matchs de l'Égypte, c'est compliqué à regarder quand même. Je trouve leur jeu. Je trouve qu'ils produisent pas assez vraiment dans le jeu, mais après, il faut se baser sur ses qualités aussi. Il faut faire en fonction des joueurs qu'on a.
Surtout quand ils ont eu Hector Cooper, quand il est arrivé, il a dû tout recommencer.
C'est vrai, bien sûr.
Il a tout recommencé. Ouais. Et il a fait un système où la défense est très regroupée.
C'est la base. C'est la base.
Défendre d'abord, et puis maintenant se projeter à l'avant.
Après, quand tu as des joueurs comme El Neni ou au milieu de terrain qui, lui, rajoutent un peu de style à l'équipe, qui fluidifie et qui transmet bien les ballons pour Mohamed Salah. Après, pour revenir sur son cas, malheureusement, il sera sûrement apte pour le mondial, mais il sera très juste au niveau en termes de forme. Et on en parlait il y a quelques semaines, je vous le disais. J'espère vraiment que ce joueur-là arrivera en pleine forme à la Coupe du Monde, mais ça me paraissait compliqué. Malheureusement, il s'est blessé pendant la finale. Et pour moi, il va arriver. Il sera apte à jouer, mais il n'apportera pas ce qu'il devra puisqu'il sera vraiment à court de compète. Même s'il a joué toute la saison et que 3 semaines d'interruption sur un mois comme ça, en plus avec la période de jeûne du Ramadan, je trouve que ça va être compliqué pour l'Égypte.
Mais à ce niveau-là, je pense que c'est fini. On ne parlera pas de Ramadan.
Mais
c'est un joueur rapide. Et pour aller vite, on a besoin de ses bras. Donc c'est très important, les gens ne savent pas, mais... Et dans les mouvements, un attaquant, on a besoin des bras. On a vu le cas de Drogba en 2002. Ça a pénalisé beaucoup la Côte d'Ivoire.
Ça serait totalement difficile de se passer de Mohamed Salah. C'est ce qu'avait aussi confirmé Hector Cooper, le sélectionneur, lorsqu'il a présenté sa liste des 23. Les Pharaons, je pense qu'ils partent avec une certaine homogénéité, une certaine cohésion au sein du groupe, même si effectivement... Mohamed Salah n'est pas encore tout à fait apte. En revanche, selon les médecins et selon le sélectionneur, encore une fois Hector Cooper, il pourrait effectivement être apte dès le premier tour. On espère pour lui, on espère pour les Égyptiens. Les Égyptiens ont terminé, coach Lamine, lors de la phase de qualification, les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc dans leur groupe, donc ont terminé premier avec 13 points. C'est pas rien, avec une bonne sélection de l'Ouganda qui finissait deuxième, le Ghana troisième, le Congo quatrième. Les Égyptiens reviennent, effectivement, c'est le renouveau du football des Pharaons. On l'attendait depuis très longtemps. Je pense que cette année, ça va être difficile. Pourquoi ? Parce qu'ils vont à un match contre la Belgique le 6 juin, en match de préparation, avant d'affronter la Russie en tant que pays hôte. Mm-hmm. Ça va pas être facile, ça va être la première rencontre. Et on va sentir peut-être justement l'ambiance et la mayonnaise si elle va prendre dans cette première rencontre qui va être déterminante pour les Égyptiens.
Ouais. Salim.
L'Égypte, moi je vois Christian, c'est vrai qu'on en a parlé même plusieurs fois hors antenne. Le problème de l'Égypte, c'est qu'ils n'ont pas de plan B en fait. Donc Hector Cooper, d'accord, fait un bon travail et tout, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que en fait, tout le jeu repose sur Salah. Mais le problème, c'est que là, il est absent. Et il y a d'autres joueurs dans cette sélection. Il y a des joueurs comme Mahmoud Karaba, par exemple, qui peut faire la différence lui aussi, celui qui est formé du côté du Zamalek. Il y a d'autres joueurs, moi je vois.
Oui, joueurs, moi, comme Alakan et Salim. Alakan, moi j'ai plus vu Elneny que et Mohamed et Salah.
Exactement.
Oui, ouais, mais parce que Salah, le problème c'est que Salah il était marqué. Et là, vu que, par exemple, pour le premier match en l'occurrence contre les Uruguayens, ils auront un poids en moins, les Uruguayens, c'est Salah. Donc ils ne vont pas le marquer comme ça pour laisser Karaba libre. Il y aura une défense en zone, il n'y aura pas de marquage individuel. Donc le truc, c'est quoi? C'est qu'il y aura Trezeguet devant avec Karaba, il y aura Fatih sur le côté en tant que latéral. Et au milieu de terrain, avec les Ahmed Achou, etc., on va voir ce que ça va donner. Moi, je dis que si l'Égypte ne gagne pas ce premier match contre l'Uruguay, ça risque d'être compliqué parce que moi, je ne souhaitais à aucun Africain d'être dans le groupe de la Russie. Parce que j'ai peur de l'arbitrage contre la Russie, surtout à domicile, etc., et tous les enjeux politiques que tout cet événement-là peut représenter. Donc moi, j'ai peur du second match contre la Russie. Si l'Égypte ne prend pas un point contre l'Uruguay, ça va être la catastrophe. Et là, il n'y a pas ça là. Moi, ça me fait peur. Mais il y a d'autres joueurs, d'accord.
Oui, il y a d'autres joueurs. Hein, y a
c'est
d'autres
ça le problème. Mais les autres joueurs, moi, j'attends Karaba. Mahmoud Karaba, lui, il va falloir qu'il... hausse son niveau de jeu. Il a le potentiel, il a les capacités. Je sais qu'il peut faire la différence contre n'importe quelle défense. Mais il va falloir vraiment que Hector Cooper fasse, je sais pas, il faut qu'il tienne un discours pour qu'il puisse le responsabiliser plus et lui faire comprendre qu'il doit hausser son niveau de jeu comme il le faisait aux Zamalek parce que c'était lui le leader d'attaque là-bas. Et au milieu de terrain, les Ahmed Achour, El Neni et consorts, ils devront jouer cette carte-là de Mahmoud Karaba et Trezeguet devra beaucoup être au service de Karaba. Et c'est de lui que viendra que viendra le salut. C'est de lui parce que je pense moi que contre l'Uruguay il y a quelque chose à faire parce que le style de jeu de l'Uruguay ils sont pas à l'aise contre les Africains. Les Sud-Américains sont pas à l'aise contre les Africains. Donc je pense qu'il y aura des failles. Maintenant si ils arrivent à gérer ce match-là, après contre la Russie c'est pas grave, mais surtout contre l'Uruguay il ne va pas falloir se louper. Et Hector Cooper, c'est un Argentin. Normalement, il doit le savoir. Voilà, c'était ce que je voulais dire.
Alors, quid du gardien de but? El Hadary, qui va entamer quand même une Coupe du Monde avec, à l'âge de...
45 ans.
45.
Ouais. Ouais, mais lui, il avait dit hein, qu'il va arrêter sa carrière à la Coupe du Monde. Donc, il avait tout fait pour y aller. Donc,
Parce que vous pensez que c'est lui qui sera le titulaire?
Moi, je voudrais bien qu'il soit
Sherif
lui.
Et Sherif Ekrami est aussi dans la liste, hein.
Les dans la liste, dans la effectivement. Ouais. Et on a. Il s'est blessé contre la Colombie, apparemment. Le gardien de 45 ans. Il s'est blessé contre la Colombie. Issam El Hadary. Mais bon, visiblement, il n'y a rien d'inquiétant. Mais pourquoi pas? Et puis là, c'est l'opportunité de parler de l'expérience dont tu parlais tout à l'heure, Lamine. Je pense qu'un joueur comme ça, au sein d'une Coupe du Monde. Il peut apporter énormément dans le vestiaire, dans les phases d'entraînement, dans la préparation mentale des joueurs, mais notamment aussi des coachs. C'est des personnages qui transmettent des énergies positives à leurs partenaires, au public. C'est des personnages dont on ne peut pas se passer. Issam El Hadary, c'est un joueur de 45 ans qui voulait faire cette Coupe du Monde. Ouais. Il est dans le groupe et il va apporter énormément, je pense, psychologiquement.
Alors, oui. Christian parlait tout à l'heure du jeûne.
Oui.
Le jeûne sera terminé à ce niveau-là.
Oui, c'est le 14 juin. C'est ça, c'est la semaine prochaine. Mais ouais. J'en parlais juste, c'était par rapport, c'était par rapport à Mohamed Salah et vraiment c'était juste sur son cas précis à lui. Dans par rapport à la récupération pour son bras. C'était juste là-dessus où j'insistais. Après, bien sûr, hein, les joueurs se débrouillent avec. Ça fait partie intégrante de la vie des joueurs professionnels. Ouais. Donc, ils savent comment s'adapter pour. Mais c'était vraiment spécifique à Mohamed Salah. Et Willy a bien expliqué, imagé ce que je voulais dire par rapport à Mohamed Salah et au fait qu'il sera pas à 100%, c'est sûr et certain, puisque les bras, on le sait, l'épaule pour courir. Il en aura besoin et ouais. Il pourra pas jouer comme Beckenbauer à l'époque avec le bras comme ça dans une écharpe.
Mais de toutes les façons, concernant toujours pour en revenir aux jeunes, il y a le Mufti d'Égypte qui avait dit que voilà, on pouvait décaler, que les joueurs pouvaient bien décaler leurs jeunes.
Il paraît que c'est possible.
Oui, c'est possible. C'est bien ce qu'il a dit pour pouvoir jeûner. Oui.
Ouais. De toute façon, effectivement, on peut pas faire sans. C'est la période. C'est effectivement. Aussi le moment de se préparer, c'est la dernière ligne droite pour les joueurs, pour ce mondial. Après l'adaptation, je pense qu'elle va se faire petit à petit. Et là, c'est la fin. On arrive à la fin effectivement du jeûne la semaine prochaine. Donc c'est vrai que ça tombe un petit peu mal par rapport au calendrier de cette Coupe du Monde qui démarre toujours à compter de la mi-juin. Mais on fait comme ça et ça va bien se passer. De toute façon. L'équipe est prête, même si, effectivement, on attend encore la grande star, Mohamed Salah.
Oui, en plus, sa blessure, c'est un peu délicat, simplement parce que les ligaments sont distendus, donc c'est difficile de remettre au niveau des ligaments. C'est un peu compliqué, je ne sais pas comment ils vont faire.
Il faut aussi se rappeler un peu de leur qualification face au Congo avec le pénalty devant 80 000 personnes. Oui. Est-ce que ça c'est un... C'est un moment fort du football égyptien.
Ça. Oui, ça, ils savent le faire. Et être discipliné, vraiment, et gagner un match. Eux, ils savent le faire depuis. Parce que c'est les maîtres du football en Afrique. Ça, il faut le savoir. Donc, les Égyptiens, et gagner un match, et se mettre ensemble pour gagner un match, ça, c'est pas un problème. Donc, le problème, c'est Salah, la blessure de Salah. Sinon, Salah, moi, j'ai vraiment confiance en eux. Dans les 5 participants, pour moi, j'ai plus confiance en eux que les autres. Hein.
Que des autres. Moi, je me souviens bien aussi de la défaite de l'Égypte face à l'Ouganda. Et malgré effectivement cette défaite, c'était le lundi 28 août 2017. Ils avaient perdu contre une très bonne sélection des crânes de l'Ouganda, 1-0. Et malgré ça, ils sont revenus petit à petit à la compétition. Match retour le 5 septembre qui a suivi, ils remportent leur match 1-0. Et après, effectivement, cette victoire contre le Congo, comme
n'oublie pas qu'ils sortent du groupe du Ghana. Hein.
C'était l'un des groupes le plus compliqué.
Oui.
Au niveau de cette phase de éliminatoire de la Coupe du Monde.
Messieurs, nous allons passer maintenant à ce qu'on pourrait appeler quelques...
Les matchs amicaux, oui.
Les matchs amicaux, bien sûr. Bien sûr.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Alors, il y a eu des matchs de nos Africains et de nos représentants africains.
Exactement.
Des matchs amicaux qui se préparent, ils se préparent. Il y a des résultats qui sont intéressants.
Ouais,
mais jusqu'à preuve du contraire, on a l'impression que ce sont des matchs nuls.
Mais écoutez, avant de...
Parce que on y reviendra. J'ai vu l'équipe du Sénégal. On parlera de cette équipe-là. Vraiment, c'est catastrophique.
Écoutez, avant que je vous donne tous les résultats, actuellement est en train de se jouer le match amical entre le Maroc et la Slovaquie. 1-0 pour la Slovaquie, c'est la 60e minute de jeu. Le Maroc a fait une première mi-temps de très haut niveau. Ils n'ont pas réussi à marquer. Et là, la Slovaquie a marqué, mais toujours domination du Maroc. Mais pour l'instant, les Marocains perdent 1-0 avec un corner qui est tiré à l'instant. Et un but raté. Donc toujours 1-0 pour la Slovaquie face au Maroc. Dans les autres résultats, donc ça avait commencé la semaine dernière, hein. Le Nigeria face à la RD Congo et le Portugal face à la Tunisie. Deux matchs nuls, un but partout entre le Nigeria et la RD Congo. Et deux buts partout, Salim nous avait fait vivre un peu cette rencontre la semaine dernière entre le Portugal et la Tunisie. Le 31 mai, Ukraine-Maroc 0-0. Luxembourg-Sénégal 0-0. Le 1er juin, Tunisie-Turquie 2 buts partout, Égypte face à la Colombie 0-0. Et avant-hier, donc samedi, le 2 juin, se jouait le match entre l'Angleterre et le Nigeria. Victoire de l'Angleterre 2-1.
Oui, mais quand on voit les résultats, on va remarquer que ce qui donne ce genre de résultats, c'est que l'Afrique est prise au sérieux actuellement. C'est plus dans le temps où on pensait des joueurs exotiques. Non! Tout le monde, même partout, quand moi je voyage, je vois que le football africain est au devant de la scène. Donc tout pays qui joue l'Afrique maintenant, un pays africain se met et joue sérieusement. Le Luxembourg, le Portugal, ils s'amusent plus. Donc on a vu ces scores simplement parce qu'ils tiennent tête à l'Afrique et l'Afrique aussi leur tient tête.
Alors, est-ce qu'on peut reprendre un peu les résultats? Parce qu'on va essayer de les décortiquer un par un. Et surtout, commençons par l'équipe du Maroc. Elle a disputé combien de matchs?
Là, elle dispute son deuxième match actuellement. Deuxième match, et elle a fait donc la semaine dernière 0-0 face à l'Ukraine.
Face à l'Ukraine. Match, et là, on est parti sur un 0-0. Ça veut dire que déjà, Hervé Renard est en train de travailler sur sa défense parce qu'ils font des clean sheets actuellement, 0-0 sur ce premier match. Et 0-0.
Et là, ils perdent 1-0 là actuellement.
Ah, ils perdent 1-0.
1-0 face à la Slovaquie.
Ouais, d'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que quand même, il est en train de miser sur une équipe complètement défensive, qui nous donne des indications par rapport à comment il va jouer.
Oui, mais ce qui est sûr, c'est que pour aller loin dans une compétition, il faut s'asseoir sur la défense. Mmh. On a vu la France en 98 et le Brésil de tout le temps. C'est-à-dire que c'est la défense la base d'une équipe. Quand on amène les attaquants, ils peuvent marquer des buts, mais pour garder un score et aller loin, c'est la défense. Mmh.
Oui, coach, on l'a vu pendant les éliminatoires. Hein, le Maroc a fini devant la Côte d'Ivoire et c'était sans conteste face à la Côte d'Ivoire. On a vu que la base, encore une fois, de l'équipe, comme l'Égypte, c'était la défense. Sauf que, contrairement à l'Égypte, eux, le Maroc, ont quand même une idée de jeu. Ils ont des joueurs pour pouvoir faire du jeu. Et ils ont raison de se baser là-dessus. Mais après, surtout, c'est au niveau offensif où là, ils ont les armes, je trouve, comparé à l'Égypte et à d'autres sélections africaines pour faire mal. Là, je vais vous donner le 11 de départ de tout à l'heure. Donc, c'est Bounou dans les cages. Hakimi, donc Achraf Hakimi du Real Madrid arrière-droit. Benassia et Saïs en défense centrale. Mendil à gauche. Au milieu de terrain, El Amadi, Boussoufa. Ensuite, devant eux, Amrabat, Belanda et Ziyech. Et en pointe, Boutaïb. Donc, l'équipe... une belle équipe et vraiment là je suis un peu avec attention ce match et c'est une équipe plaisante à voir jouer. Franchement, ça ce sera une des surprises après le groupe qu'ils ont.
Mais c'est un bon signe que les équipes africaines aient une bonne défense parce que en attaque on a des attaquants à revendre comme tu le sais. Donc s'ils préparent la défense pour aller à ce tournoi, mais c'est un bon travail.
Ouais, on dit souvent hein, la défense est la meilleure des attaques. Et c'est vrai que c'est important de travailler la ligne défensive.
Christian est en train de nous dire, pardon.
Mais ça rejoint ce que je dis, ils ont égalisé.
Exactement.
Voilà. Exactement, égalisation du Maroc, je me l'ai dit, hein, ils étaient en train de pousser, ils ont pris ce but.
La meilleure des attaques.
Mais ils sont bouillants, ils sont bouillants. Donc un but partout entre le Maroc et la Slovaquie, 64e minute de jeu.
Salim, rapidement, un mot sur le Maroc?
Oui, un mot sur le Maroc. Comme tu le disais, hein, coach Lamine, hein, Hervé Renard met l'accent sur la défense. Mais le Maroc, moi, je suis un peu déçu au niveau des avant-centres parce que
vous êtes déçu de tout le monde. Salim est déçu de tout le monde, lui.
Non, juste des avant-centres. Je suis pas déçu du Maroc. Non, je suis juste déçu des avant-centres parce que. Il a convoqué Boutaïb, il a convoqué Bouhadouz, qui est remplaçant en deuxième division à Saint-Pauli en Allemagne, je rappelle. Et il a convoqué El Kajoui, El Kabi, pardon, le meilleur buteur du Chan. Alors, El Kabi, le meilleur buteur du Chan, j'espère qu'il va jouer. Par contre, Boutaïb et Bouhadouz, ils répondent pas présents, quoi. Moi, ils ne me donnent pas satisfaction, moi, je ne suis pas satisfait d'eux. Donc, voilà, il va falloir que Hervé Renard. Je veux une concurrence loyale. C'est-à-dire que si El Kabi doit jouer, qu'il joue. Et que les autres qui n'arrêtent pas de rater leur match, parce que c'est le cas, Boutaïb et Bouhadouz est remplaçant, mais Boutaïb n'est pas à la hauteur. Moi, je veux voir El Kabi. Je veux une concurrence loyale.
Mais de toutes les façons, on ne peut pas reprocher à Hervé Renard d'être quelqu'un qui n'est pas loyal par rapport au classement.
Sur ce point-là, c'est pas normal, parce que l'autre, il joue au Maroc, il n'est pas traité comme ceux qui jouent en Europe, alors qu'il est plus fort. Je parle de ce poste-là, je ne parle pas des autres postes. Je parle en attaque. Et il n'a pas sélectionné El Arabi, alors que El Arabi, normalement, parce que c'est le meilleur neuf qui existe aujourd'hui au Maroc. Il ne l'a pas pris. Il a qu'à faire confiance à El Kabi. El Kabi, c'est le meilleur.
Il est convoqué, non?
Oui, mais
oui, il est sur le banc, là, ce soir.
Ben oui.
C'est pas normal, à chaque fois, il joue pas. Attends, Hervé Renard, il est parti voir le Chan, il dit des belles phrases concernant El Kabi et tout, et maintenant, le rendez-vous approche et El Kabi ne joue pas.
Ben écoute, tout le monde ne peut pas jouer en même temps non plus. Hein.
Pas tout le monde. monde, pas tout le monde. Je demande l'avant-centre, le meilleur.
L'attaque. Ouais, mais bon, bah, je crois qu'il a combien de matchs ? On verra bien. Je veux dire, c'est peut-être lui qui gère finalement. On comptait sur certains joueurs comme l'avant-centre Giroud. Peut-être qu'il ne jouera pas non plus.
Ouais, mais quand on va passer. Ouais, mais toi aussi, le coach, quand on parle d'attaquant, tu ne parles pas de ce gars-là. Non,
ouais, d'accord, sérieux, ok. Je m'excuse. On passe une page de pub et on revient tout de suite.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa numéro 1.
Sur la radio africaine, non mais c'est pas possible ça. Sur la radio africaine, le 107.5, messieurs avec Chanchango, avec Hakim Djellouat et puis avec le doyen Willy de... Messieurs, tu n'es jamais là, on va parler tout à l'heure de Zidane, tu n'es jamais là quand on a besoin de toi, ça c'est clair. Messieurs, donc on finit avec l'Égypte, donc avec cette équipe égyptienne qui, je pense, aussi pourrait faire quelque chose, même si on est repassé rapidement sur une histoire de marocaine.
Mais pour l'Égypte, oui, à voir. Hein, ils sont dans un groupe aussi où c'est ouvert, ils peuvent le faire. Après, il faut qu'ils jouent sur leurs armes, bien sûr, sur leurs valeurs sûres. Et après, il faut espérer pour eux que celui qui jouera, qui portera l'équipe offensivement à la place de Mohamed Salah sera en forme. Mais dans un groupe avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, pour l'Égypte, c'est ouvert. Pour le Maroc, avec l'Iran, le Portugal et l'Espagne, c'est plus compliqué, mais c'est faisable.
Alors, faut rappeler que nous serons donc en direct le jour du match, le 15, hein, c'est bien ça ?
C'est ça, exact, le 15.
Le 15, à partir de 20h. À partir de 20h, donc jusqu'à 22h, pour refaire tous les matchs, reparler un peu le débriefing de ces matchs.
De l'Égypte, j'ai confiance parce qu'ils sont très disciplinés comme joueurs. Donc j'ai confiance parce qu'on a besoin de discipline pour aller un peu loin et jouer contre des grandes équipes. Il faut être discipliné. Et le Maroc, je me rappelle très bien, ça ne nous rajeunit pas, mais en 1986, tout le monde disait que le Maroc est tombé dans le groupe de la mort. Et il y avait l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. Ils étaient premiers de ce groupe. Et devant le Portugal, l'Angleterre et la Pologne. Et vous connaissez très bien la Pologne des années 80, de Lato, de Boniek et compagnie. Donc les Africains sont des grands footballeurs, hein, déjà.
Exactement. Alors Salim, vous étiez avec nous pour nous parler encore du Maroc. Un dernier renseignement sur le Maroc ?
Oui, un dernier renseignement sur le Maroc. Le Maroc commencera par l'Iran. Après jouera contre le Portugal et ensuite contre l'Espagne. Donc je pense que de ce que j'ai vu entre le Portugal et la Tunisie, comme je vous disais auparavant, le Maroc a toutes ses chances, vraiment toutes ses chances de faire quelque chose de très intéressant. Comme le rappelait Sylvain Doyen, voilà, le Maroc par le passé, que ce soit en 96, même en 98, hein, ils n'avaient pas passé les poules à cause de la défaite du Brésil contre la Norvège au dernier match là. Mais sinon, ils avaient fait un beau premier tour. Donc j'espère que le Maroc va saisir sa chance et qu'ils auront confiance en eux. Je pense qu'ils auront confiance en eux. En tout cas, ils peuvent le faire. Hein.
Oui, et Salim, l'Espagne, tout le monde en parle parce que tout le monde se rapporte au Real et au Barça. Or, le Real et le Barça ne sont pas des équipes espagnoles. Donc l'Espagne, j'étais au Brésil quand l'Espagne est revenue derrière le premier tour. Donc... c'est faisable.
Ouais, mais moi, je parle plus du Portugal, parce que l'Espagne, ça sera le dernier match.
Mais le Portugal aussi est revenu à la maison au premier tour. Hein.
Oui, mais le Portugal, c'est le deuxième match. Oui, bien sûr. Ouais. Ils étaient dans le groupe du Ghana, je me souviens.
Oui, c'est pas des fautes de guerre.
Le Portugal, il y a moyen.
C'est pays européen, l'Angleterre est premier tour. Ouais, mais ils nous font peur. Mais
en tout cas, ce qu'on peut dire pour finir sur le Maroc, c'est que lors des éliminatoires, ils ont encaissé aucun but. Hein.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce que je disais.
Aucun but.
La défense,
ils avaient quand même la Côte d'Ivoire, ils avaient le Gabon, ils avaient le Mali.
Ah ouais, quand tu sors de ce groupe, c'est un bon groupe. Hein.
Le Gabon qui a battu la Côte d'Ivoire hein, quand même. Hein, donc, mais oui, le Maroc, hein, écoutez, ils ont... de toute façon, c'est ça, c'est la magie du foot et c'est la Coupe du Monde. On va voir, ils ont la qualité pour faire quelque chose. Après, c'est surtout dans les matchs qu'ils ont à jouer.
Mais déjà, 5 pays africains sur 55 pays de football. Non, c'est en 4 pays de football, mais c'est pas rien. Et le Maroc ne joue pas contre les îles Féroé avant d'aller au Mondial. Hein.
Ah, un autre but qui a été marqué.
Ouais, mais c'est en sérieux.
Un deuxième but pour le Maroc. But reprise de volée en dehors de la surface par Younes Belhanda, magnifique.
Alors, ceux qui m'écoutent doivent savoir ce que je disais.
Voilà. 73e minute de jeu, 2-1 pour le Maroc, but de Younes Belhanda.
Alors voilà pour le Maroc donc, qu'on va suivre Donc je le rappelle, vendredi prochain, à partir de 20h, le match est à 17h.
Ah ouais.
Donc on fera le débriefing à partir de 20h, le match sera fini. Et on aura des consultants comme Abdes Wadou qui a été...
Des consultants en un seul mot, hein.
Des consultants.
En un seul mot, s'il te plaît. Ouais.
J'ai pas compris hein, jusqu'à présent. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas grave.
Je vais t'expliquer hors antenne. Ouais. Des consultants en un seul mot, quoi, tu vois.
Messieurs, on va passer au bref après, maintenant. Et surtout, avant les brèves, on va aller du côté de l'Espagne. Parce que l'Espagne, une actualité nous attend là-bas. Et il fallait qu'on en parle, puisque notre ami Zizou est parti. Il faudrait bien qu'on nous dise pourquoi il est parti.
On a un autre ami là-bas, El Mejor.
El Mejor de la Liga. Hey.
La Liga espagnole sur Africa numéro 1.
Hey Adama, qu'est-ce que tu as Adama, qu'est-ce que tu
Adios.
Salut Adama.
Buenas noches a Coslamin, buenas noches a Daniel Willy.
¿Cómo va usted?
Akin, bonsoir.
Bonsoir Adama.
Salim, bonsoir à Christian, bonsoir à Hélène. Et puis,
mais t'es fâché, t'es fâché.
Et non, je ne suis pas fâché puisque les dieux sont tombés sur les têtes des Madrilènes ce jeudi. Et le volcan n'a pas emporté seulement le départ. Inattendu des Zidane, même le président du gouvernement espagnol aussi est parti dans la même semaine. Donc c'est pour vous dire que.
Mais pourquoi Zidane est parti? Qu'est-ce que disent les journaux? Est-ce que tu as des informations? Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Parce que l'année prochaine, le vestiaire va tomber complètement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Est-ce qu'il a peur de la défaite?
Pas peur.
Pourquoi il est parti?
Non.
Intouchable.
C'est pas une question de peur. Zidane a eu beaucoup de difficultés pour terminer cette saison avec son effectif.
Ouais.
Et tout n'était pas rose. Mais c'est un grand monsieur qui a su jouer avec son intelligence, qui a su mener ses joueurs d'être avec lui
jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Ouais.
Et donc, comme il savait que c'était déjà difficile, et ce qui a sauvé la saison, c'est la Champions League qui a permis à cette équipe d'être encore sacrée championne d'Europe.
Oui.
Et donc, Zidane, il a été porté très haut par ces joueurs-là. Puisqu'il était intelligent, s'il partait un peu contre ces joueurs, le vestiaire allait péter. Donc, Zidane, il est intelligent.
Oui.
Il sent cela venir.
Merci.
Il sait que s'il doit être à la tête de cette équipe, soit c'est lui, soit c'est ses joueurs. Alors maintenant, pour ne pas tout casser, et si on a suivi aussi du côté de Barcelone lors du départ de Guardiola, Zidane a préféré tout simplement partir parce que les égos sont devenus vraiment ingérables au sein de ce vestiaire. Et vous l'avez vu, après le sacre, Cristiano Ronaldo qui sort.
C'était bien de jouer au Real.
Oui.
Qui demande aujourd'hui d'amener son salaire au niveau du salaire de Messi. Oui, Cristiano Ronaldo qui veut, avec les impôts qu'il doit payer, 28 millions d'euros. Non, il faut que je paye 14 millions. Il y a trop de mesquineries au sein de ces vestiaires, si bien que Zinedine Zidane, il se connaît très bien, il ne veut pas exploser un Madrid qui va encore revenir un séjour, vous allez vous rappeler. Et quand l'effectif sera renouvelé, 2 ou 3 ans, Zidane va revenir au sein de la Casablanca. Il y a des têtes, que Zidane ne peut plus gérer, les égos.
Alors, donnez-nous des noms. Ronaldo.
Coslamine, aujourd'hui, il n'a pas cité des noms, mais il a cité les difficultés qui l'ont fait partir. Ce n'est pas une question de peur. Voilà, ce n'est pas une question de peur. Il préfère partir dans ses honneurs et avoir ses honneurs, aussi respecter l'équipe qu'il a tout donné. Cette équipe, il la porte dans son cœur.
Adama,
tout simplement, il allait dans la dignité.
Adama, il quitte le Real au sommet de son art, mon ami.
Oui. Mais non, mais c'est pas ça.
Adama. Si, 9 trophées en 2 ans, messieurs. 9 trophées en 2 ans, 3 Ligues des Champions.
Non, le problème n'est pas
une
là.
Liga.
Attends, Adama.
Le problème n'est pas Adama. Zidane. On veut savoir pourquoi Adama. Il est parti.
Tu te rappelles de ce que je te disais il y a très très longtemps que Zidane va être sauvé par ses joueurs. Tu te rappelles?
Oui.
Qu'à chaque match... Je t'ai dit pourquoi ils vont ils allaient battre le PSG. Je t'avais expliqué. Parce qu'ils ont un coach à sauver. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé au niveau du Real, on perd deux matchs, on voit les sifflets qui sifflent partout. Mais ce club-là, je ne sais pas, et ce club-là ne peut pas être dirigé par un gars comme Zidane. Parce que Zidane est un passionné. Il aime le foot. Mais quand on aime le sport, on sait que dans le sport, il y a des défaites.
Ouais.
Mais quand il y a les supporters et le président Pérez ne sait pas qu'on peut perdre en sport, il va quitter.
C'est un passionné et un génie.
Mais il part sur un très bon bilan, un bilan qu'il ne pouvait plus espérer.
Mais oui.
Ouais, mais bon, on a compris par rapport au bilan.
Bien sûr.
Moi, c'est pas ce qui me...
Laissez-moi terminer.
Non, mais bon, vous êtes en train de vous extasier.
Il avait déjà dans son plan, hein, pour son mercato, il y avait déjà l'international sénégalais Mané qui était sur sa liste. Donc, tout a changé en espace de 12 heures.
9 trophées.
Donc,
voilà. 9 trophées, messieurs.
Voilà. Monsieur,
3 Ligues des Champions.
Laissez,
une Liga.
Voilà. On a bien compris. On a bien compris. Mais laissez-nous savoir pourquoi il est parti. Donc, en fait, c'est pas prémédité. Il ne savait pas qu'il allait partir. C'est arrivé
tout
savoir.
De suite. Non, il doit savoir.
Non, mais puisque non. Adama nous dit...
Il ne savait pas qu'il allait partir.
Il a tellement souffert aussi, il a dit.
Non, mais attendez, entendons-nous bien. Zidane ne savait pas qu'il devait partir. S'il savait qu'il allait partir, il n'allait pas faire sa liste, comme le dit Adama, préparer des Sadio Mané pour qu'il vienne au niveau de la Casablanca.
C'est ça.
Donc, si... Il a décidé de partir, c'est que quelque part, il y a eu des choses qui ont dû le froisser dans le vestiaire.
Il a encaissé le mal dans son cœur. Il l'a dit. Oui. Il n'a pas oublié l'élimination du Real de Madrid contre Leganés parce que ces joueurs l'ont lâché.
Mais c'est ce que je dis.
Voilà. Et donc, il l'a dit, il l'a répété. Mais comme il est intelligent, il n'a pas fait de problème avec ses joueurs. Il les a amenés avec lui. Il a su gérer ce vestiaire, il a su gérer les égos, il arrivait à un objectif qu'aucun entraîneur aujourd'hui n'a pu avoir ce bilan.
Donc
il préfère aller la tête haute.
Adama, donc son intention venait de loin alors. C'est ça ce que je disais.
Oui, mais il voulait bien continuer. Mais le mal après réflexion, après d'être hissé au sommet, il s'est dit, alors là, si j'ai des déclarations comme ça après la coupe, après être sacré, donc cela voudrait dire que
c'est n'est pas
avoir des problèmes. Voilà.
Donc si on en tire donc, la conclusion,
décision,
c'est...
La décision a été prise après la finale.
Ouais. Oui.
C'est ce qui s'est dit en Espagne.
Ouais.
Et je pense qu'il a également probablement aussi, peut-être, hein, je parle vraiment au conditionnel, et c'est peut-être ça aussi qui est important, c'est de passer du temps avec ses proches, ses parents, qui sont très âgés et qui l'ont éduqué d'une manière disciplinée.
Et que je connais bien cette famille-là, que j'ai remercié.
Le papa qui est âgé, la maman qui est âgée, sa famille.
Mais on parle de tout ça, mais est-ce que vous savez très bien que si Zidane perdait la Champions League, on allait le virer sur le champ.
Mais aujourd'hui, il l'a gagné. Voilà, trois succès, messieurs.
On sait. Ça, vous nous
mais appelez... faut appeler
Adama, moi ma question, elle est simple, c'est toute simple. Est-ce que Zinedine Zidane a été froissé par son président? Je parle par exemple du mercato d'hiver et du mercato de cet été, de tous les chambardements qui avaient arrivé. Est-ce que Zinedine Zidane, tout simplement savait que ça allait être compliqué avec le président, avec sa lubie, j'en parlais la semaine dernière, quand il y a la Coupe du Monde, il a envie de faire un gros transfert du meilleur joueur. Donc, comme il n'a pas forcément la main mise dessus, est-ce que c'est pas ça qui a un peu aussi refoulé Zinedine Zidane et qui lui a fait comprendre que, bon, bah, de toute façon, il pourra pas faire mieux, donc autant partir tout en haut de l'affiche.
Ah ben, c'est bien ce que j'ai dit, il ne pourra pas faire mieux.
Bien sûr.
Il a surpris
donc, il a
président.
Peur.
Il a surpris son président, puisque au mercato d'hiver, son président voulait à tout prix Kepa.
Voilà, Kepa, exact, voilà, c'est ça.
Et là, Zidane est sorti de sa réserve. Il a dit, je n'ai pas besoin de gardien de but. Et c'était déjà bouclé. Et donc, Zidane, il a beaucoup encaissé. Et comme c'est quelqu'un qui veut partir la tête haute, il ne veut pas se brouiller avec son ami Florentino Pérez. Et Florentino Pérez, on le connaît, il a pris vraiment un contre-pied. Et ce monsieur aujourd'hui, il ne dort plus. il ne dort plus, puisque Zidane, comme il l'a dit, je pars, mais je pars avec quand même des bons souvenirs et aussi le mal que j'ai encaissé au cours de cette saison.
De toute façon, les informations disent que Zidane a failli être viré après le match contre le PSG.
C'était moi des infos que j'avais vues, exact, c'était surtout après le match en coupe, quand ils perdent en Copa del Rey, où il a été lâché par les joueurs, comme tu disais, là, c'était là où c'était compliqué, et là où il a fait un pacte avec les joueurs d'aller chercher la Ligue des Champions. C'est ce que j'ai lu dans les médias des confrères espagnols, Adama, donc je ne sais pas si tu peux confirmer
oui,
ou
mais,
pas.
Mais aujourd'hui, que Zidane gagnait ou il perdait, s'il perdait, il allait être viré par Florentino Pérez, oui. Parce qu'il n'y a pas de sentiment dans le football. Et donc, comme Zidane est arrivé à ses objectifs,
exact.
Il a dit adios. Maintenant, je m'en vais, je vous laisse le temps. Il a été bien poli. Et de laisser le temps de chercher un autre entraîneur et de ne pas s'initier dans le recrutement de la saison à venir. Et donc, moi, je trouve que c'est un monsieur qu'il faut saluer. Et c'est un de nos frères africains. Il est parti avec l'éducation africaine. Il n'est pas allé la queue entre les jambes comme le font certaines personnes. Il claque, il s'en va.
C'est vrai, il est parti en grand seigneur.
Voilà.
Parti
aujourd'hui.
Au sommet de son art.
Voilà. Le président, je vous dis qu'il a du pain sur la planche.
Mais.
Hakim. Le président, il n'a. Moi, je peux vous dire aujourd'hui dans cette émission que le président, il n'a plus de 2 ans à la tête du Real de Madrid, puisque l'entraîneur qui va venir, si jamais il n'arrive pas à faire de bons résultats, il va sauter en même temps que Florentino Pérez.
Ok, comme ça, et Pérez et les supporters sauront qu'on peut perdre en football.
Salim.
Oui, coach.
Alors,
concernant Zidane, moi, ce que je voudrais dire, c'est que Florentino Pérez, je ne sais pas comment il s'est comporté dans cette histoire-là, mais il est à l'image de ses supporters. C'est-à-dire que ses supporters, ils ont oublié qu'ils ont gagné déjà 2 Ligues des Champions d'affilée. Et cette saison, j'entendais des Zidane, les joueurs l'ont lâché contre les Ganes. Non, le Real Madrid a perdu contre les Ganes. Ils ont perdu, comme n'importe qui peut perdre en coupe.
C'est Zidane qui l'a dit.
Oui, il peut le dire peut-être.
Oui, parce qu'il le vit, il l'a vécu.
Oui, d'accord Adama. Mais Adama, tu peux perdre un match de Coupe du Roi, tu peux le perdre.
Oui.
C'est pas parce que tu perds un match de Coupe du Roi qu'il doit y avoir
la révolution.
L'âme nationale au niveau de la Casablanca. Et
non.
Puis, Zidane, il faut se rappeler, Adama, il a récupéré un groupe qui était au bord de l'implosion, parce qu'avec Benitez, ça se passait très très mal. Et quand Zidane récupère ce groupe-là en 2016, et après, il perd à Wolfsburg 2-0, il fait la remontada au Bernabeu 3-0, il passe, et ensuite, il fait le parcours jusqu'en finale contre l'Atletico, il gagne. L'année d'après, il remporte la Liga, ce qui n'était plus le cas depuis 2012. Et il ramène la Liga à Madrid.
C'est son meilleur souvenir, oui.
Tu vois ? Et ensuite, Ligue des Champions, bien sûr, avec. Et ensuite, encore, 3e Ligue des Champions d'affilée, Florentino Pérez qui menace Zidane après le match contre, à la veille du match contre le Paris Saint-Germain et lui dit si tu passes pas, on te vire. C'est pas bon du tout. Un club doit savoir perdre. Et le Real Madrid est grand dans la victoire, mais n'est pas grand dans la défaite.
Ah, ils ont été respectueux avec Zidane.
J'arrive même pas à comprendre comment même les supporters, les socios, peuvent râler après une défaite ou même après une saison blanche. Une saison blanche, ça peut arriver.
Mais s'il y a trois
on parle du Real de Madrid, monsieur.
Il y a 9 trophées en 2 ans.
Non, mais c'est ça, les supporters du Real, vous savez très bien, c'est des gens, ils vont au théâtre, ils vont au Santiago Bernabéu, ils vont au théâtre, ils sont pas contents, ils sifflent.
Mais c'est du sport.
Non, bien sûr, mais ils ont sifflé tout le monde. Les Galactiques ont été sifflés, Raoul, l'idole a été sifflé, tout le monde est sifflé.
Mais c'est qu'on ne connaît pas le sport, qui reste à la maison.
Donc ça, c'est partie intégrante de la Casablanca. Donc ça, la limite, bon, les sifflets, bon.
Ok messieurs, merci pour Zidane. En tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, il est parti.
On l'attend comme un génie.
Du côté de monsieur, s'il vous plaît, on sait que c'est le meilleur, c'est le meilleur.
Il faut l'admettre.
Bon, ne vous inquiétez pas,
une information.
Nous on était content d'augmenter notre actif pour les footballeurs africains dans la Liga.
Et voilà.
Donc, voilà.
Et lui, il s'en va.
Où sera le dossier aujourd'hui?
Exactement.
voilà.
Exactement.
Mais bon, il s'en va.
On était fiers voilà. qu'il soit là voilà. comme entraîneur, mais on n'est pas fiers qu'il soit parti. Parce que sinon, ça nous diminue quelqu'un d'intelligent et qui est très fort, comme tu le dis, Hakim.
Oui. Une information juste sur le match Maroc-Slovaquie. Il y a 2-1 donc, pour le Maroc. Je vous ai donné le deuxième buteur, qui était Belanda. Et le premier buteur, il est rentré à la mi-temps. C'est Ayoub Ekaabi qui a remplacé Boutaïb en attaque. Et c'est lui qui a mis le but égalisateur pardon, pour le Maroc.
Voilà, ceci dit est dit. Ouais. On va aller du côté maintenant d'un tournoi dont on nous a parlé. Je vous laisse Hakim parler de ce tournoi-là rapidement.
Oui, on va parler d'un tournoi, Coach Lamine, que l'on avait déjà, on avait parlé l'année dernière. C'est un tournoi de football qui met en avant le sport santé, mais qui s'y sensibilise aussi aux gestes de premier secours. On va accueillir justement peut-être Patrick qui est avec nous par téléphone. Et le tournoi se déroule exactement le 9 juin avec des personnalités du monde sportif qui seront présentes. Et notamment, pas des moindres, hein, donc des anciens de 98 qui ont été coéquipiers avec Zizou et d'autres également. L'objectif de ce tournoi reste vraiment, Coach Lamine, la sensibilisation à la santé, aux gestes de premier secours pour aider justement tous les clubs de foot et les pratiquants de football.
Bonsoir, docteur. Allô ?
Oui, allô ?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est Patrick. Je ne suis pas docteur.
Hein. Ah, vous... en tout cas, nous, on pensait qu'à partir du moment où on est dans la santé, tu sais, on est bête et discipliné. Hein. Moi, celui non, qui est dans la santé, je lui appelle docteur. Voilà, point. Bon, ben, allez, c'est pour rigoler. On y va.
D'accord. Oui, j'aimerais bien être docteur, mais je n'ai pas les capacités. Je suis manager général de l'association SSF, Sarcelle Santé Football. Alors, comme le disait Hakim, nous organisons la deuxième édition du tournoi de foot Les gestes qui sauvent, dont le but est de prévenir le risque d'accident cardiaque et les AVC, accidents vasculaires cérébraux, suite au décès de notre ami foudroyé d'une crise cardiaque en 2016 à Lyon, alors qu'il disputait un banal match de football. Alors, la deuxième édition, en point d'orgue de cette deuxième édition, il y aura un match de gala qui va se disputer à 14h30 précise, au centre sportif Nelson Mandela à Sarcelles, 1 avenue Paul Langevin. Le tournoi de foot a lieu de 8h à 17h. Et c'est un match de gala qui va opposer les anciennes gloires du Cameroun et de France, et de l'équipe de France. Notamment Lilian Thuram, Olivier Dacour, Manuel Amoros, Steve Marley, j'en passe et des meilleurs. Côté camerounais, Patrick Mboma, Cyril Makanaki, Bernard Chutan, Moukoko Moser Simon, Kus Diefi et Pierre Oumé. Voilà.
Donc on rappelle juste la date, peut-être.
Alors, la date, c'est samedi le 9 juin à Sarcelles, dans le 95.
Et le stade ? Et
le stade, c'est le centre sportif Nelson Mandela. Et si je peux me permettre.
Allez-y.
En clôture du tournoi aura lieu une soirée de gala caritative dont les fonds iront à l'épouse de notre ami décédé en 2016 d'une crise cardiaque. Son épouse s'appelle Madame Mengue, voilà. Donc
qui est la femme de
Yannick Mengue. Voilà. Donc, on compte sur tout le monde pour venir en fait nous assister et nous soutenir dans ce combat qui est noble. Parce qu'il faut savoir que les morts subites sont une grande cause nationale et nous aurons aussi l'appui du docteur Armand Guécap qui va sensibiliser le public aux gestes de premier secours et qui va également initier le public à la dangerosité des AVC.
Alors, vous voyez bien qu'il y a un docteur. Donc, ça veut dire qu'il va, il va faire des démonstrations sur le terrain ?
Exactement. Il va faire des démonstrations sur le terrain, notamment avec les joueurs de l'équipe de France et les joueurs du Cameroun, pour que le message, en fait, soit plus accessible, soit plus porteur. Voilà. Et le soir... Il va faire des démonstrations sur les AVC.
D'accord, d'accord.
Bravo, hein, bravo pour ce que vous faites, bravo pour cette belle action.
Et sur la première édition, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Vous avez eu du monde, etc.?
Oui, oui, alors, la première édition s'est super bien passée. On a eu beaucoup de monde. Hein. Mm-hmm. Mais la deuxième édition, je pense aussi qu'il y aura beaucoup de monde parce qu'on a fait beaucoup de publicité. La mairie de Sarcelles, qui est notre partenaire, nous a fait énormément de publicité. Mmh. On a fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. Et les footballeurs aussi ont fait beaucoup de publicité.
Okay.
Donc, on pense qu'il y aura énormément du monde. D'autant plus qu'il y aura le match de gala qui va opposer les anciennes gloires françaises et camerounaises. On va d'ailleurs interpréter les hymnes nationaux. Alors, j'invite les Camerounais et les Français à se munir de drapeaux parce que les hymnes seront interprétés et nous allons les chanter à gorge déployée et à tue-tête.
Merci beaucoup. Merci, en tout cas, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà.
Pas de questions, mais félicitations puisque c'est des gestes importants à connaître. Et à titre personnel, j'ai été touché dans ma famille par une situation d'AVC et c'est des gestes très importants. Donc j'invite vraiment les gens à y aller et vraiment à y aller. C'est franchement force à vous et bon courage.
C'est gratuit, hein, on rappelle. Hein, c'est gratuit, donc c'est le 9.
Rapidement, on rappelle l'adresse. Rapidement.
L'adresse exacte, s'il vous plaît. Donc ça serait le 9 juin, samedi 9 juin. À partir de quelle heure et l'adresse, s'il vous plaît?
Alors, samedi 9 juin, à partir de 9h, le match de gala aura lieu à 14h30 précise au centre sportif Nelson Mandela à Sarcelles, 1 avenue Paul Angevin, à côté de la piscine.
Mmh, très bien. Okay. Merci beaucoup.
Merci, voilà, merci beaucoup. Merci.
Merci infiniment. Merci beaucoup.
Merci Patrick, au revoir.
Merci, au revoir.
Je vous donne une seule information ce soir, c'est Pep Guardiola, c'est Yaya Touré. Demain, le journal France Football, nos équipes, de nos confrères de France Football, et donc Yaya Touré qui vide son sac et qui balance un peu sur Pep Guardiola. Je vous lis sa déclaration, j'ai l'impression que Pep, sans reconnaissance ni respect, a tout fait pour gâcher ma dernière saison. J'en suis même arrivé à me demander si ce n'était pas à cause de ma couleur de peau. Je ne suis pas le premier à parler de ces différences de traitement. Au Barça, je sais que certains se sont posé des questions, peut-être que
Samuel Eto'o.
Les Africains ne sont toujours pas traité de la même manière par les autres. Il fait semblant, Pep Guardiola, de ne pas en avoir des problèmes avec les Africains. Il est trop intelligent pour se laisser piéger. Il ne l'avouera jamais. Mais le jour où il aligera une équipe au sein de laquelle on retrouvera 5 Africains et non des naturalisés, promis, je lui enverrai un gâteau.
Les propos de Yaya Touré, c'est ce qu'on appelle en français de la redondance. C'est du pléonasme.
Mais exactement.
Voilà.
Messieurs, merci beaucoup. Merci Adama. Et puis, continuez à chercher un entraîneur pour le Real de Madrid. Merci à Salim. Merci à Salim. Merci les gars. Donc, merci. Semaine prochaine. Hein. Donc, n'oubliez pas.
Semaine de Coupe du Monde. Hein.
Semaine de Coupe du Monde. Donc, juste avant de partir, dans quelques instants, une rediffusion, n'est-ce pas, de l'émission Fatih Touba où comment rebondir quand on est tombé au plus bas. Fatou, ouais, recevait le rappeur Desto Ruti.
Despo Ruti.
Despo Ruti, une émission diffusée pour la première fois le 3 janvier dernier.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa numéro 1.